Nous sommes heureux ce matin encore d'être réunis autour de la parole de Dieu avec notre frère François Le Picard. Que Dieu nous inspire au travers de ce que tu vas nous dire. Et nous sommes les cœurs tout ouverts avec une totale confiance dans ce que le Seigneur t'a confié. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère.
Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour mon épouse et pour moi d'être encore une fois avec vous ici. Et je vous remercie pour les efforts que vous faites pour assister à toutes ces réunions les unes après les autres et aussi ces longues réunions. Je suis conscient que les réunions sont longues pour chacun, chacune et les enfants aussi. Et ce n'est pas mon désir, disons, d'abuser de votre gentillesse, de votre hospitalité ou de votre patience, mais j'essaie, disons, pour moi, c'est aussi un effort, une fatigue, mais j'aimerais tellement que quelque chose puisse être dit, qui puisse vous aider, vous encourager dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner autant d'informations possibles, en espérant qu'il y a peut-être une chose pour l'un, une chose pour l'autre, comme cela. Voilà pourquoi je fais cela ainsi. Et je vous remercie de votre compréhension et de votre amour. Et je suis heureux ce matin de voir frère Alain, c'est bien cela, c'est le frère Alain qui a conduit les chants. Des fois, je passe sur toujours des prénoms, mais qui a pu être parmi nous aujourd'hui. Et tout à l'heure, alors nous chantions ces beaux chants, et beaucoup de vos chants, je ne les connais pas, mais ils sont vraiment beaux. Et si je pouvais savoir comment les apprendre, avoir peut-être une cassette, un CD ou quelque chose, certainement que nous aurions de la joie à les chanter aussi dans notre assemblée, certains de ces beaux chants que vous chantez ici. Et quand nous avons chanté l'avant-dernier chant, j'ai vu le petit cœur là, te ressembler Jésus. J'ai dit, mais tiens ça, j'aimerais bien le chanter ce matin, ce petit cœur. Et le Saint-Esprit certainement a senti cela, a vu cela, et frère Michel a dit, encore un chant, et frère Alain a dit, ce sera celui-là. Dieu conduit bien les choses, ne trouvez-vous pas? Comme ça, et le but de toutes ces prédications sur le thème relation et position, eh bien le but de ceci, c'est que nous puissions ressembler davantage au Seigneur Jésus. C'est ça le but. Nous ne sommes pas ici pour faire, je sais pas, de la psychologie ou des choses comme cela. Non, ce n'est pas notre domaine, mais nous sommes là pour voir, mais qu'est-ce que je peux apprendre de Jésus? Lui, l'homme parfait, lui, Dieu manifesté sur la terre dans un corps de chair. Eh bien, vous savez, la Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens que quand nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés. Le mot grec, c'est « métamorphosé » en la même image. Combien aimerait être plus comme Jésus ce matin? C'est votre désir sincère? Parfois, on peut dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Quels efforts je dois faire? Non, non. Regarde-le. Contemple-le. Observe-le. Regarde sa nature, son caractère, ses œuvres, ses actions, ses réactions. Regarde-le. J'étais frappé il y a quelques années en arrière en voyant ceci. Vous avez certainement entendu parler de ce chanteur célèbre qui s'appelait Elvis Presley, spécialement les plus âgés parmi nous, et qui a eu vraiment un succès mondial. Et bon, c'est un homme qui avait reçu un don de Dieu, qui a eu une voix magnifique, une très belle voix chaude et tout cela. Mais savez-vous où il a commencé à exercer son don? Dans une église pentecôtiste. Dieu lui avait donné ce talent, ce don pour le glorifier, lui. Mais après, il était appâté par le gain, par l'argent, et ensuite il a vendu son don, son talent, pour s'enrichir et devenir lui le roi, entre guillemets, et tout cela. Mais enfin, bref. Mais il a créé vraiment tout un mouvement des fans d'Elvis Presley, et bien sûr qu'après les morts et toutes ces choses. Mais j'étais surpris de voir, sur des photographies, dans des journaux, tout cela, qu'il y avait des jeunes hommes qui voulaient être comme leur idole, voulaient lui ressembler. Alors ils se coiffaient comme lui, ils s'habillaient comme lui, etc. Les pantalons, les chaussures, enfin toutes ces choses. Ils essayaient de tenir le micro comme lui, de se dandiner comme lui. Pourquoi? C'était leur idole. Il était devenu comme leur dieu, en quelque sorte. Ils étaient tellement impressionnés, et en admiration par l'homme Elvis Presley, qu'ils avaient chez eux des grands posters avec Elvis, 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 Elvis. Ils avaient tous ces disques, tous ces enregistrements. Enfin, ils baignaient continuellement là-dedans. Et obligatoirement, eh bien, la personnalité et l'apparence d'Elvis Presley a déteint sur ses admirateurs. Donc, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Ce n'est pas pour parler d'Elvis, ce n'est pas le but de ma prédication, mais juste pour vous montrer que la Bible dit que quand nous contemplons le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous le regardons, lui, il y a beaucoup de choses à regarder, mais souvent nous, chrétiens, on se laisse distraire par ceci, par cela, par beaucoup de choses. C'est sûr qu'on voit un peu ce qui se passe, mais gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. La Bible dit, détournant les regards et regardant à Jésus-Christ, qui est le chef, le consommateur de la foi, ou celui qui initie la foi, qui l'amène à la perfection. Et quand on regarde Jésus-Christ, vous pouvez le regarder en face, vous pouvez le regarder sur le côté, vous pouvez le regarder depuis derrière, sur l'autre côté, depuis en haut, depuis en bas. Mais regardez-le bien, écoutez-le bien. Et si vous baignez dans cette atmosphère-là, lisez ce que Jésus a dit. Laissez Jésus vous parler. Mais il faut baigner là-dedans. Et automatiquement, sans faire de gros efforts, quand vous baignez dans quelque chose, vous êtes imprégné par cela. Et le caractère de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la nature de Jésus-Christ, eh bien, il y a quelque chose qui rentre en vous que vous ne voyez même pas peut-être, mais avec le temps, à la longue, eh bien, vous êtes transformé, je répète, littéralement métamorphosé, en changement de forme, à son image. Et vous passez de gloire en gloire en gloire. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux dans la vraie vie chrétienne, parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'on appelle le christianisme, mais je dis la vraie vie chrétienne. Et le prophète de Dieu a aussi relevé cela. Il a dit, mais c'est quelque chose qui vient automatiquement. Si notre nature est changée, à la base nous avions tous une nature de, excusez-moi, cochon. On se vautrait dans la boue, dans le péché, dans le mensonge, dans l'immoralité, enfin toutes ces choses-là. On était là-dedans, la Bible dit, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, eh bien, il ne nous soumet pas à ce qu'on pourrait appeler un endoctrinement, un bourrage de crâne en disant voici les principes, voici les commandements, et ceci et cela. C'est sûr qu'il y a un enseignement, mais le but, ce n'est pas de bourrer le crâne des gens et puis de les endoctriner et puis ensuite faire pression sur eux, tu dois faire ceci, tu à faire cela, et puis tu dois te mortifier. Et puis... Non, ce n'est pas cela. Il faut simplement qu'on permette à Jésus-Christ de changer notre nature. Quelque chose à l'intérieur, pas simplement changer un extérieur. Vous savez, c'est facile pour un individu de changer de religion. Il y a des musulmans qui deviennent chrétiens, il y a des chrétiens, soi-disant, qui deviennent musulmans. J'en ai rencontré aussi. Mais une religion, c'est quoi? C'est juste une veste. Hein, aujourd'hui, vous avez la veste bouddhiste, demain vous mettez la veste islamique, après vous mettez la veste chrétienne et tout cela. Oh là là, voilà un converti de plus, quelle que soit la religion. Mais ce n'est pas de cela dont Jésus parle. Ce n'est pas d'un changement de veste qu'il nous faut. C'est un changement de cœur. C'est l'intérieur qui doit changer. Et s'il y a un changement à l'intérieur de nous, c'est ce que la Bible dit dans le prophète Ézéchiel, un nouveau cœur, un nouvel esprit, et ensuite mon esprit à l'intérieur. Mais après, s'il y a un changement de nature, et que la nature de cochon est remplacée par une nature de brebis, le prophète disait ceci, il n'y a pas besoin de frapper une brebis, ou disons de crier contre une brebis pour lui dire « Produit de la laine, allez, produit de la laine, allez, produit de la laine !» Ça serait ridicule, vous comprenez les enfants, hein? Et si un agriculteur, un paysan, eh bien, frappait ses moutons, ses brebis, hein, qu'il était brutal et violent avec elles, parce qu'il dit « Je veux que tu produises la laine, je veux que tu produises la laine !» On dirait « Mais il est fou le pauvre homme !» Mais il n'y a pas besoin de frapper une brebis, de crier contre, d'être violent avec elle, pour qu'elle produise de la laine. Vous êtes d'accord? Non, tout ce que le paysan doit faire, donne-lui de la bonne herbe, de la bonne eau fraîche, et puis témoigner de l'amour, et puis automatiquement, parce qu'elle est une brebis, elle ne cherche pas à ressembler à une brebis, elle est à l'intérieur. Hein? Dans sa nature même, elle a une nature de brebis. Elle ne peut pas faire autrement que de produire de la laine. C'est pour ça que c'est sûr que si à l'intérieur il y a une semence de Dieu, si à l'intérieur il y a l'Esprit de Jésus-Christ, si à l'intérieur il y a quelque chose de vrai, mais ça ne peut pas faire autrement que de transparaître. Mais ce n'est pas en faisant des efforts, en se faisant violence, puis avec un combat en disant « oui, j'aimerais faire ceci, mais la Bible dit que je devrais faire cela ». Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et beaucoup trop de chrétiens dans nos églises vivent comme cela. Ils font des efforts surhumains pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de faire bonne impression devant le pasteur ou les gens et tout ça, que les gens disent « ouais, ça c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est une vraie chrétienne et tout cela ». Mais ces gens que vous les regardez, ils ne sont pas heureux. Ils sont constamment dans un combat, un tiraillement. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je dois pas? Tout cela. Tout devient un effort. Tout devient une corvée. Tout devient une contrainte. Et certains pensent, oh là, si vraiment je me force comme cela, puis je fais de gros efforts, vraiment là, je vais plaire à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une religion. Ce n'est pas le vrai christianisme. D'après ma compréhension maintenant, encore une fois, vous pouvez comprendre les choses à votre manière. Je ne suis pas ici pour vous imposer ma manière de comprendre. Je vous dis simplement, je suis simplement ici pour être transparent avec vous. Ce que j'aimerais, c'est qu'après ces quelques jours, eh bien que vous connaissiez un petit peu mieux l'homme ou le frère qu'on appelle François le Picard. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce que je suis et ce que je dis, vous êtes complètement libre et je vous aime de tout mon cœur. Ça ne change rien pour cela. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir, peut-être certains ont entendu ma voix sur des enregistrements, mais qui est l'homme derrière la voix? Parce que je ne suis pas qu'une voix, je suis un homme aussi. Hein, j'ai mon caractère, ma personnalité, mes habitudes, mes qualités, mes défauts, tout cela. Et j'essaie, disons, de m'ouvrir à vous. Vous savez, on parle dans ce message, eh bien, que les livres des sept sceaux étaient ouverts. Apocalypse 10, il tenait dans la main un petit livre ouvert, c'est la parole de Dieu, les mystères, c'était ouvert, révélé, tout cela. Tout ça, je le crois de tout mon cœur, c'est merveilleux. Mais un petit livre ouvert, pour moi, c'est encore un petit peu abstrait. Mais comme je le comprends, ça veut dire que Jésus-Christ s'est ouvert. Jésus-Christ s'est révélé. Et si lui s'est révélé maintenant, eh bien, ça veut dire que moi aussi, je dois m'ouvrir. Moi aussi, je dois me révéler, me dévoiler. Et nous sommes dans un temps de l'histoire de l'humanité extraordinaire. Nous sommes dans un temps où, comme Jésus l'a dit, où tout ce qui est caché sera découvert. C'est le temps du dévoilement de toutes choses, hein, de la révélation de toutes choses. Je remettrai ma veste, c'est juste pour une petite démonstration. Encore une fois, révéler, dévoiler. Peut-être que nos jeunes amis ici diront, mais... Ah, ce sont des mots un peu compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché par un voile, par une couverture, comme ça. Donc là, eh bien, pour ceux qui ne voient pas, eh bien, j'ai enlevé ma veste et je la tiens devant mon visage, comme ça, et personne ne voit mon visage. Mais maintenant, chacun peut encore entendre la voix. Et si vous n'aviez pas vu mon visage précédemment, vous pourriez dire, mais on voit une partie du corps... On entend une voix masculine, mais maintenant, on aimerait bien voir le visage de la personne qui parle. Mais il y a ce voile, il y a cette veste noire qui est là, et je ne vois pas, je n'arrive pas à distinguer, mais comment est-ce qu'il est, quelle est la couleur de sa peau, quels sont les traits de son visage, et tout cela. Chacun se pose des questions, l'un pensera une chose, l'autre pensera une autre chose, chacun aura une idée différente. Mais à un certain moment, eh bien, je peux choisir de me dévoiler, de me découvrir, de montrer mon visage. Et alors, qu'est-ce que je fais? J'enlève le voile. Et vous voyez, j'étais toujours là. Il n'y a pas quelque chose qui est apparu. Non, non. Simplement, le voile, la couverture était enlevée. et maintenant vous pouvez décrire mon visage, vous pouvez décrire la grosseur de mon nez, la grandeur de mes oreilles, la couleur de mes yeux, amen, la couleur de ma peau. Maintenant, ce n'est plus un mystère. Le mystère a été dévoilé, a été révélé. C'est ce que Dieu fait dans notre temps. Jésus-Christ est un mystère pour beaucoup de personnes. On cite son nom, on parle de lui, on cite ses paroles. Mais peu de personnes connaissent le vrai Jésus-Christ de la Bible, qui est Dieu lui-même, caché, voilé dans un corps humain. Mais nous sommes dans un temps vraiment extraordinaire. Et je dirais ceci, c'est Jésus-Christ qui a donné le coup d'envoi. Il a dit maintenant, le temps est arrivé pour que les mystères de la Bible soient révélés, pour que je me dévoile pleinement. Comme Apocalypse chapitre 10, verset 7 le dit, au jour de la voix du septième ange, qui est le messager à l'âge de Laodicée, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu est un mystère, c'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions dans le monde, et tellement aussi de dénominations différentes de la chrétienté. C'est parce que Dieu est un mystère, Dieu a choisi de se cacher pour pouvoir se révéler dans la simplicité et dans l'humilité. Mais tant que Dieu ne se révèle pas, eh bien c'est comme tout à l'heure, je pourrais demander à quelques dizaines de personnes qui sont ici, eh bien, donnez-moi votre ami, l'homme qui est derrière ce voile, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux, quelle est la couleur de ses cheveux, comment le voyez-vous? Là on pourrait dire, bon ben, moi je l'imagine comme ça, moi je l'imagine comme ça, moi je l'imagine comme ça. Aucun ne pourrait être sûr des traits de mon visage tant qu'il est voilé. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? Mais quand j'enlève le voile, tout le monde peut parler d'une même voix. Tout le monde peut dire, sa peau est blanche, un petit peu rosée peut-être, ses cheveux sont châtains mais grisonnants, ses yeux sont gris-verts, il en a assez... un nez assez important aussi, des grandes oreilles et tout ça... Chacun peut faire la même description. Pourquoi je suis dévoilé? Eh bien, je crois que c'est ça qui peut amener le corps de Christ dans cette unité, où on parle d'une même voix. Comme Paul dit, bien, ils ont tous un même langage. Mais pour cela, il faut voir la même chose. Et quand Christ se dévoile, eh bien, regardons et décrivons ce que nous voyons tous, parce qu'il s'est dévoilé. Mais le fait que Christ se soit dévoilé, parallèlement, il a dévoilé l'homme de péché. Le diable était dévoilé. Il s'était caché dans les arts de l'église, sous la forme de plusieurs cavaliers. Et comme le premier cavalier, sur un cheval blanc, tout ça, ça parle de perfection, de blancheur et tout. Mais c'était le diable qui se déguisait. Un esprit mauvais qui s'est déguisé pendant les arts de l'église. Et il s'est infiltré dans l'église. Il a modifié la parole de Dieu. Les gens n'avaient plus le droit de lire la Bible. Il y a eu beaucoup d'hérésies qui sont sorties comme cela. Mais maintenant, nous sommes dans le temps où le diable était dévoilé. Et voilà pourquoi le diable déteste le livre de l'Apocalypse et le livre de la Genèse. Parce que ça parle, ces deux livres de la Bible, ça parle de son origine, comment au début, eh bien, il a trompé, il a menti, il a séduit. Et l'Apocalypse parle de sa fin aussi. Il déteste ces deux livres-là, parce que ce sont deux livres spécialement qui l'exposent, qui le dévoilent. Et parallèlement, eh bien, dans Romains chapitre 8, il est parlé que la création tout entière attend la révélation, le dévoilement des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là, dans ce temps de l'adoption, du placement, où les vrais fils et filles de Dieu vont être dévoilés. Ce n'est pas nécessaire que nous mettions un écriteau sur la poitrine en disant « Regardez-moi, regardez bien, je suis un fils de Dieu, regardez comme je suis beau, je suis un fils de Dieu, je suis un vrai chrétien. » Non, il n'y a pas besoin. Vous ne mettez aucun écriteau, aucun signe caractéristique, comme ça vous restez tranquille, humble et tout cela. Mais votre vie, Christ dévoile votre vie, ce que vous êtes à l'intérieur. Les gens diront, mais cet homme, il est différent. Cette femme est différente. Ce jeune est différent. Bon, c'est un être humain, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui le différencie des autres. C'est quoi? C'est une vie, c'est une nature, c'est un caractère qui vient de l'intérieur. Le dévoilement, la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là aussi. Mais maintenant, remarquez, Ça m'a frappé depuis quelques dizaines d'années quand il y a eu M. Gorbatchev qui est venu au pouvoir en Union soviétique. Et alors que l'Union soviétique avant était très cachée, elle camouflait beaucoup de choses, une publicité mensongère, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts, nous ceci, nous cela. Mais M. Gorbatchev a dit maintenant c'est le temps de glasnost, c'est-à-dire de la transparence. Et tout à coup, il a ouvert l'Union soviétique au regard de l'extérieur. Et quand les gens ont pu enfin pénétrer puis se promener un petit peu, ils ont vu que tout ça c'était du bluff. Que même au niveau de l'agriculture, eh bien, les tracteurs étaient tout rouillés, au niveau de l'industrie, c'était des vieilles usines et tout cela et tout. Ils ont vu la réalité, c'était le temps de la transparence. Et ça m'a frappé. J'habite en Suisse, j'ai vécu toute ma vie en Suisse, mais même en Suisse, on peut dire que c'est le pays de la propreté, le pays de la neutralité, le pays, beaucoup de gens font des éloges de la Suisse et tout cela. Mais j'ai travaillé dans la banque. Et quand je travaillais dans la banque, eh bien, on parut de grandes listes qui nommaient le nom des gens qui avaient des fonds en déshérence. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'argent volé aux Juifs avait été placé dans des banques suisses ou des compagnies d'assurance suisses. Et après, ces gens sont morts et les descendants, personne ne savait où ça avait passé. Mais il y a eu un avocat américain qui a dit, eh bien, je vais m'occuper de cela. Il a remis ça en surface. Et toutes les banques suisses ont dû faire des recherches de 40, 50 ans en arrière dans leurs archives. Et ça, c'est normalement, on les garde 10 ans. Je ne sais pas comment ils ont pu retrouver les titulaires de ces comptes en déshérence. C'est-à-dire des comptes où personne ne s'y intéressait, personne ne réclamait ce qu'il y avait sur ce compte. Et pour les banques, c'est agréable, ça fait de l'argent, on peut l'utiliser tout cela. Mais les propriétaires, on ne savait même pas où ils avaient passé ces gens-là. Ils ont dû faire des recherches, fouiller et regarder partout pour que les héritiers puissent venir réclamer ce qui leur appartenait. Frères et sœurs, regardez les scandales qu'il y a eu avec même des grandes sociétés en Suisse, comme Swissair, comme de grandes sociétés, même des grandes banques, comme Union de Banque Suisse et tout cela. Des choses qui avant, mais restaient camouflées, il y a toujours eu de la magouille. Mais maintenant, comment se fait-il qu'au niveau financier, au niveau économique, au niveau politique, regardez M. Clinton aussi, un grand président des États-Unis, eh bien, il avait ses petites affaires, ses petites aventures à côté, mais ça se passe partout dans le monde. Dès qu'on a le pouvoir, eh bien, on sauve tout ce qu'on a envie, aussi bien les plaisirs, les femmes, les ceci, les cela, mais tout le monde le fait, même en France aussi, des enfants, d'autres femmes, etc. Mais là, tout à coup, eh bien, plutôt que ça reste, disons, camouflé et connu seulement de quelques gens proches, tout à coup, boum, ça vient au grand jour. Boum, le monde entier en parle. Boum, ça fait la une des journaux. Et ceci dans tous les domaines. Vous me direz, mais pourquoi tout à coup, eh bien, il semble que tout ce qui se passe, toutes les choses camouflées, cachées, tout le monde entier le sait. Pourquoi ? Nous sommes dans ce temps-là. Le temps de la révélation de toutes choses. Le bon et le mauvais, tout vient à la surface. Mais si c'est vrai pour ce qui se passe dans le monde, c'est aussi vrai pour ma vie. Je dois être conscient qu'aujourd'hui, eh bien, je ne peux plus camoufler quelque chose. Même les choses que peut-être que personne ne sait, tôt ou tard, le Seigneur va les mettre au grand jour. Sera-ce bon, sera-ce mauvais, je dois être prêt à accepter cela. Que tout soit dévoilé. C'est pour ça, frères et sœurs, nous avons vu hier soir que le juge est à la porte maintenant, que le juge, avant de juger le monde, il vient juger son Église. Pas pour lui faire du mal, pas pour la condamner, pour l'aider. Pour l'aider à atteindre ce niveau de perfection et de ressemblance au Seigneur Jésus. Donc le niveau le plus élevé, c'est un appel élevé. Donc il vient par la parole, par le message de l'heure, et il le fait pour moi, et je vous ai dit cela hier soir, mais il vient juste dans des petites choses, mes pensées, mon comportement, une attitude, des petites choses comme ça. Je dirais, mais frère François, on te voit un petit peu comme ci, comme ça, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu agit dans ma vie. Pourquoi je ne suis plus aujourd'hui ce que j'étais il y a 6 mois, 1 année ou 5 ans en arrière ? En contact avec Jésus-Christ, avec sa parole révélée, tout cela, le Seigneur va fouiller dans ma vie, il est là, il m'écoute, il me regarde, il sent mes pensées, mon cœur, mes reins, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut m'amener à un certain but. Je crois qu'il m'a choisi, je crois qu'il m'a élu pour faire partie de son épouse. Mais ce n'est pas simplement un titre honorifique, ça veut dire des exigences très très hautes. Parce que Jésus-Christ veut une église à son image, à sa ressemblance, qui porte ses caractéristiques. Il ne veut pas épouser n'importe quoi comme église. Il veut une église qui soit le reflet de lui-même. Je crois qu'un homme, quand il choisit une épouse, eh bien, il veut une épouse qui puisse être compatible avec sa nature, compatible avec son caractère, qu'il y ait vraiment fusion entre les deux. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut vraiment demander l'aide de Dieu pour trouver le bon conjoint. Mais Jésus-Christ, ça c'est sûr, parce que c'est pour l'éternité. Ce n'est pas un mariage en disant « ça ne marche pas dans 6 mois, on se divorce, on recommence ». Non, non, il n'y aura pas de seconde chance. Ce sera un bon mariage pour l'éternité. Donc le Seigneur Jésus, vraiment, il met la barre très très haut. Mais ne soyez pas découragés. La Bible dit « c'est lui qui fait le travail ». C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous perfectionne. C'est pour ça que je peux être un chrétien heureux aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me forcer. Si je commence à me forcer à quelque chose, si je fais quelque chose à contre-cœur, il y a un problème quelque part dans mon expérience. Je dis non, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Vous savez, quand on aime vraiment quelqu'un, rien n'est trop difficile. Vous êtes d'accord? Rien n'est trop dur. Ça devient... Deux de mes beaux-fils qui sont belges et mes filles étaient en Suisse. Et pendant leur fréquentation, mais combien de fois ils ont fait la navette Belgique, Suisse et tout cela. Ils ne disaient pas, oh ben écoute, t'habites trop loin, regarde, ça me prend 8-9 heures pour venir te trouver. Ben écoute, il ne faut pas être trop exigeante. Si on se voit une fois tous les 6 mois, non, il y avait un tel besoin de se rencontrer, un tel besoin d'être ensemble. Ils ne sont jamais plaints, c'était trop difficile. Ils étaient amoureux de quelqu'un. Eh bien, c'est la même chose pour nous. On aime le Seigneur, mais j'aimerais dire, on est amoureux du Seigneur. Seigneur, le moindre de tes désirs, le moindre de tes souhaits, Seigneur, même si peut-être je n'ai pas été élevé comme ça, peut-être que c'est nouveau pour moi, mais Seigneur, si c'est ton désir, si ça peut te faire plaisir, eh bien, Seigneur, c'est de bon cœur que je le fais. Et je crois que c'est ça qu'il attend de nous. En tout cas, je ressens que c'est ça qu'il attend de moi par rapport à cela. Donc, le but de ces réunions, c'est d'essayer de vous encourager, peut-être de vous donner envie en disant, mais tiens, j'ai pas encore entendu cela comme ça, j'ai cru que l'Église était rigide, c'était vraiment des règlements, des commandements, des obligations, des ceci, des cela, il faut se forcer, tout cela. Ça, c'est pas l'Évangile auquel je crois. Je ne veux pas être un chrétien triste, je veux être un chrétien heureux, dans le repos, dans la paix, dans la joie. Simplement dire, mais Seigneur, mais je t'abandonne mon être, je t'abandonne ma vie, je me donne à toi, et laisser sa vie en moi, agir et s'exprimer au travers de moi. Si j'aime, je ne me force pas à aimer. Ça sort de moi. Si je pardonne, si je sers, si je m'humilie, n'importe quoi. Je ne veux pas que ce soit moi, je dois faire. Non, ce n'est pas ça. Je m'abandonne, dis Seigneur, voilà, bien, je suis là pour te glorifier. Le prophète a dit ceci, Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'a pas d'autre main que les miennes et les vôtres. Il n'a pas d'autre bouche que la mienne est la vôtre. Il n'a pas d'autre corps que le mien et le vôtre. Donc, quand on s'abandonne à lui, il utilise ce corps pour se manifester. Mais regardez parallèlement les gens qui se livrent au diable, hein, qui disent, et on voit ça dans tous les milieux, on se donne comme cela. Mais le diable les utilise, c'est un esprit le diable, mais il a besoin aussi de corps pour se manifester. Donc, ceux à qui on se livre, on se donne, que ce soit un esprit ou un autre, nous utilisent pour se manifester. Nous voulons-nous pas que ce soit l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de nous? Mais encore une fois, nous avons vu pendant ces réunions que Dieu n'est pas un Dieu qui force, qui impose. Simplement, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même, si quelqu'un veut, tu ne veux pas, pas de problème. Mais si tu veux, si quelqu'un a soif et qu'il le veut et qu'il vienne boire de l'eau de la vie. Donc, Dieu respecte notre volonté humaine. Mais quand notre volonté humaine peut s'unir à la volonté de Dieu, quand je veux ce que Dieu veut et que Dieu veut ce que je veux, quand les deux volontés deviennent une, le prophète a dit, alors le miraculeux se produit. Alors l'omnipotence se manifeste. Parce que les deux volontés se sont unies, sont devenues une. N'est-ce pas ce que nous voudrions ce matin ? Pas ma volonté, ta volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Des fois, on dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Mais c'est sa parole, sa volonté. Donc, j'aimerais encore dire ceci, j'aime le Seigneur Jésus. Et vous? Est-ce que vous l'aimez ce matin de tout votre cœur? Vous savez, Mais pourquoi est-ce qu'on l'aime? Comment est-ce qu'on peut l'aimer? À la base, on n'a pas d'amour à lui donner, mais parce qu'on a reçu son amour, parce que lui nous a aimé le premier. Et bien maintenant, on reflète, c'est comme un feedback, c'est comme un retour, on lui redonne l'amour qu'il nous a donné. Une épouse, il y a bien des femmes, même chrétiennes, qui des fois aimeraient être de bonnes épouses, aimeraient aimer leur mari, aimeraient faire encore mieux, mais elles n'arrivent plus à donner. Mais ce n'est pas de leur faute des fois, c'est qu'elles n'ont pas reçu assez d'amour de leur mari. Une femme est comme un miroir. La Bible dit la femme est la gloire de l'homme, comme l'Église est la gloire de Christ. Eh bien, si un mari veut que sa femme l'aime plus, mais tu ne m'aimes pas assez, tu ne fais pas assez pour moi. Mais ne blâmez pas votre femme, vous les hommes, nous les hommes, mais aimons encore plus notre femme. Honorons-les davantage, rendons-leur davantage de service, apprécions-les, remercions-les, tout cela, valorisons-les. Il n'y a pas besoin de dire plus. Quand une femme reçoit sa charge d'amour de la part de son mari, vraiment qu'elle est comblée par vraiment l'amour, la gentillesse, la douceur de son mari, elle est faite comme cela. Dieu l'a faite, l'a créée comme ça. Automatiquement, ça va ressortir. Une femme a d'énormes qualités. Elle donnerait sa vie pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Elle est prête à se sacrifier. Elle aime se donner. C'est son plaisir, c'est son bonheur. Mais il faut d'abord qu'elle ait pu recevoir la chose, qu'elle sache que vraiment elle est appréciée, respectée, honorée. Et quand elle reçoit ce dont elle a besoin, mais généralement elle redonne cela. Et le mari dit, mais qu'est-ce que ma femme aime? Mais c'est normal. C'est toi, frère, tu lui as donné cet amour. Comment lui as-tu donné cet amour? C'est que toi, d'un autre côté, tu l'as reçu de Christ. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc tu as eu cette relation, toi, avec Christ, et maintenant, ce que tu as reçu de Christ, tu le redonnes plus loin. Enfin, pardonnez-moi si ce sont des petites pensées comme cela, mais simplement, c'est comme ça que je vis, c'est ça que je crois, c'est ça que j'aime. Encore une fois, eh bien, c'est quelque chose de personnel. Hier soir, eh bien, nous avons parlé un petit peu du respect, on a utilisé ces deux cerceaux en plastique, ces deux hula hoop, que nous avons posés par terre, nous avons demandé à deux enfants, à Lucas et à Julie, de venir dans l'un de ces cerceaux, moi dans l'autre, simplement pour essayer de visualiser. C'est quoi le respect? C'est le respect du territoire de chacun, hein, de son intégralité, de sa dignité, la dignité humaine, que ce soit un enfant ou un adulte. Jésus a pris combien de fois l'exemple de petits enfants? Il a dit, mais regardez ce petit enfant. Pour dire, mais qu'il prenne l'exemple de gens célèbres, de sommités. Non, il a pris un simple petit enfant en disant, mais regardez, vous devez lui ressembler. Donc, il a honoré les enfants, il a honoré les femmes, même des femmes de mauvaise vie. Il ne les a pas écrasées, non, il les a respectées, il les a honorées. Et au présent de Jésus, je crois que chaque être humain, homme, femme, jeune, vieux, quelle que soit la race, la couleur, se sent valorisé, se sent honoré, se sent respecté. Et on connaît tous notre condition, on sait que nous ne sommes pas dignes au départ. Mais quand Jésus s'approche de quelqu'un, ce n'est pas pour l'écraser, ce n'est pas pour le pousser encore plus au fond du trou, c'est toujours pour lui tendre une main sous bras en disant « Je t'aime, tu as de la valeur pour moi, tu as de l'importance pour moi. Et si tu me le permets, je peux t'aider à te relever et à me ressembler. J'aime ce Jésus-là. » Donc nous allons parler sur le respect. Il y a une chose que j'ai oublié de dire par rapport au respect. Il y avait donc ces deux cerceaux qui étaient très visible, l'un bleu clair, l'autre rose clair, donc c'était très visible, tout le monde pouvait les voir, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas des cerceaux par terre pour délimiter votre territoire. Vous êtes d'accord? Si maintenant je prends Noémie, ou si je prends frère Philippe ou comme cela, et qu'on se côtoie pendant quelques instants, il n'y aura pas un cerceau pour me dire « ça c'est ton territoire, ça c'est son territoire ». C'est pour ça que j'appelle cela une frontière invisible. Et c'est ça qui est la difficulté, c'est que suivant la personne, la position de chacun ou la relation que nous avons, la frontière n'est pas toujours au même endroit. Avec mon épouse, elle a aussi son territoire, j'ai le mien, mais à cause de notre relation de mari et femme, eh bien, je peux m'approcher d'elle, je peux la serrer dans mes bras, je peux l'embrasser, elle ne sera pas offensée, elle ne se sentira pas mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que notre relation permet ce genre d'intimité. Mais maintenant, si je prenais l'une d'entre vous, sœur, quel que soit votre âge, et que je faisais la même chose avec vous qu'avec mon épouse, les gens diraient, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y aurait une gêne, ce serait normal, parce que la relation est différente. Et vous savez, tous les gens, enfin tout le monde, le monde entier, l'industrie cinématographique, tout le monde, amour, lave de partout à toutes les sauces, mais les gens ne savent même plus ce qu'est l'amour. Le vrai amour s'exprime dans le respect. Et quand on aime quelqu'un, il faut absolument qu'on découvre où est la frontière, jusqu'où je peux aller avant de faire du mal à la personne. Et il y a des personnes qui ont des caractères, des personnalités plus fortes que d'autres. Et inconsciemment, on vient comme ça, bam, 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 pas pour faire du mal, mais on vient d'une façon tellement brusque, des fois tellement autoritaire, tout cela, que les autres, bouf, ils sont complètement gênés, un peu comme Lucas hier soir, là, ce grand bonhomme comme ça qui vient dans mon territoire, qui me repousse comme ça. Bien, souvent, on agit comme ça inconsciemment. Donc, si seulement Dieu pouvait nous rendre un peu plus sensibles à cela, en disant, cette personne, Dieu la respecte, je dois la respecter. Et je dois savoir où est la frontière, comment lui parler. On parlait du tutoiement un petit peu entre nous. Eh bien, pour certains, ils sont embarrassés si quelqu'un commence à les tutoyer. Ils disent, mais pourquoi est-ce que cette personne me tutoie ? Est-ce qu'elle me traite comme un enfant ? Ou bien, est-ce qu'elle... Et pourquoi ? Et là aussi, je veux faire attention à cela. Disons que ça doit être réciproque. Si on se vouvoie, on se vouvoie. Si on se tutoie, on se tutoie. Tout cela dans le langage, dans le comportement, dans l'attitude, eh bien ça montre, est-ce que la personne est respectée ou elle n'est pas respectée. Donc, pensez à ces deux cerceaux, mais pour ne pas, disons, être pris au piège, eh bien sachez que dans la réalité, il n'y a pas rien de visible pour déterminer le territoire de l'autre et votre territoire. C'est à chacun d'entre nous. Les enfants aussi doivent respecter leurs parents. Il y a des fois des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom, des choses comme ça. Bon, moi, ça me dérange un petit peu. Pour dire papa, maman. Alors, François, Suzanne, mais tu parles à qui ? À ton papa, ta maman, mais c'est pas ton copain et ta copine dans un sens. Premièrement, c'est ton papa et ta maman. Respecte-les dans leur position. Même s'ils sont assez gentils pour se mettre à ton niveau, pour être copain et copine avec toi, mais n'oublie pas, c'est papa et c'est maman. Donc, les enfants, respectez les parents, mais les parents, respectez les enfants. Le mari, la femme qui se respectent, on se respecte dans l'église, on se respecte dans la société, on respecte les gens qui ne croient pas comme nous. Parfois, il y a des gens qui peuvent devenir tellement virulents, tellement agressifs, tellement sarcastiques avec des gens qui ne croient pas comme eux. Ce n'est pas du respect, cela. Frère Branham a prêché un message intitulé « Le respect ». Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un bon petit message, le respect. Et il dit ceci. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ne sont pas dignes de respect en eux-mêmes, il dit respecter la fonction qu'il détient en Dieu. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur en tant que serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu. Et parfois, ils n'avaient pas tous une vie reluisante. Des fois, ils avaient vraiment fait des choses disons, terribles pour un serviteur de Dieu, même pour un chrétien, tout cela. Et parfois, certains se sont acharnés sur eux pour les démolir, pour détruire leur ministère. Non, je ne crois pas que ce soit la bonne attitude. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de David et du roi Saül. Saül avait fauté, Saül avait désobéi à Dieu. Dieu avait même rejeté Saül dans la position de roi. Et vous savez que David, plusieurs fois, il aurait pu tuer Saül. Saül était venu pour dormir dans la grotte, etc. Et on lui a dit, allez David, Dieu le livre entre tes mains, profite, tu le liquides maintenant, c'est toi qui deviens roi tout de suite. Mais David avait l'esprit de Christ en lui, il a dit, non, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Ce n'est pas à moi l'éliminer. Si Dieu veut le mettre de côté, Dieu s'en chargera. Effectivement, à la guerre, eh bien, Saül a été blessé, tout cela. Le respect de l'onction, le respect du ministère, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au travers de ce message. Et je me rappelle le témoignage de Frère Branham, qu'il est allé en Inde dans les années 50. C'est là-bas qu'il a eu les plus grandes réunions. Il y avait des centaines de milliers de personnes à la réunion. Mais regardez l'attitude de cet homme de Dieu. Eh bien, il a eu une rencontre avec les prêtres de plusieurs religions hindoues, les Sikhs, les Jains et tout cela, tous ces prêtres. Il a pris du temps pour aller vers eux, les rencontrer et les écouter. Et chacun de ces prêtres a exposé sa foi, sa croyance, hein, ce qu'il croyait, chacun de ces prêtres. Et Frère Branham, sans les contredire, sans se moquer d'eux, sans les critiquer, les a écoutés respectueusement. Chacun d'entre eux. On peut dire, mais c'était du temps perdu. Non, non, c'était une marque de respect à l'égard de ces hommes. Je pense qu'ils n'avaient pas choisi d'être dans telle ou telle religion, c'était peut-être hérité de leurs parents, mais il les a honorés, il les a respectés dans leur foi. Et après qu'il les ait écoutés les uns et les autres, après leur a dit, bien maintenant, si vous voulez savoir ce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il est Dieu, qu'il est le même aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que je crois, je vous invite à participer à notre réunion ce soir. Venez voir mon Dieu agir et confirmer sa parole. Et ces prêtres sont venus, parce que le prophète les avait honorés et respectés. Regardez même les prédicateurs, les pasteurs qui ont dénigré Frère Branham, qui l'ont critiqué son enseignement et tout cela. Et il cite parfois quelques noms et tout cela. Mais Frère Branham défendait ces hommes, il disait, cet homme, c'est un homme de Dieu. Peut-être je ne suis pas d'accord sur tel et tel enseignement qu'il apporte, mais c'est un homme de Dieu. Si je peux l'aider, je vais l'aider. Toutes ces choses m'influent, je dis, Seigneur, j'aime ça. Je vois tes caractéristiques dans cet homme. Je vois là un chrétien, une vie qui me fait envie. J'ai envie d'être comme cela. Donc, c'est en regardant ces choses. Vous savez, parfois, on peut dire, oui, Dieu envoyait un message, il y a des grandes doctrines qui ont été restaurées, apportées, tout cela. Oui, il y a tout ça. Mais après plus de 40 ans que j'étudie ce message, maintenant, je vais aller chercher dans le détail. Et comme traducteur, je dois m'arrêter à chaque mot. D'ailleurs, je ne peux rien laisser passer. Chaque mot, chaque verbe, chaque nom, chaque pronom, chaque chose, je dois m'arrêter. Est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Et je peux vous dire, je découvre des pépites là-dedans. Des choses dans la simplicité, des choses toutes simples, toutes humbles, mais qui me font un bien énorme. Je dis, mais Seigneur, comme c'est beau, comme c'est grand. Seigneur, mais ça c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas pour élever un homme, c'était juste un canal, un instrument. Il me dit, Seigneur, ça c'est dans mon temps, dans ma génération, la vie de Jésus-Christ manifestée. Je dis, Seigneur, j'aime ça. Si tu étais ici aujourd'hui, je suis sûr que tu agirais comme ça. Et c'est ça que je veux, c'est ça que j'apprécie. Aussi, je crois qu'il y a toujours ce contraste ou cette ambivalence entre être et paraître. Et Jésus en a parlé par rapport aux pharisiens, tout cela, qui voulaient paraître juste, paraître ceci. Et personnellement, je veux plus m'attacher à être, à la question de que suis-je, qui suis-je, que chercher à paraître quelque chose devant les gens. Vous savez, on peut paraître des chrétiens, on peut paraître des croyants de ceci, des croyants du message et tout cela, mais moi, je veux quelque chose de plus profond que cela. On est tous différents les uns des autres, ça j'en suis conscient, mais personnellement, j'aimerais savoir, mais qui suis-je? Que suis-je? Et petit à petit, Dieu me montre qui je suis à ses yeux. Il me montre ce que je suis, quel rôle je dois remplir, quel service je peux remplir. La Bible parle de la beauté intérieure, qui est le caractère, de la beauté extérieure. Et c'est sûr qu'on n'est pas insensible à la beauté extérieure, que ce soit des personnes, des choses qui nous entourent et tout cela. Mais vous savez, la beauté extérieure, elle est tellement éphémère, elle est tellement passagère. Sur le plan physique, notre beauté extérieure, elle n'est pas plus épaisse que l'épaisseur de notre peau. Vous avez entendu ça? Notre beauté extérieure à l'épaisseur de notre peau. Frère Branham parle d'une maman et un jour la maison familiale a pris feu et sa petite fille, son petit bébé était prise dans les flammes. Et cette maman, remplie d'amour maternel, elle s'est précipitée dans le brasier pour aller récupérer son bébé avant qu'il ne périsse. Elle l'a pris, elle l'a emmitouflé, elle l'a protégé comme cela, elle est ressortie de la maison et le bébé était sauvé. Mais le résultat, la maman était complètement défigurée. c'est une belle femme, vraiment jolie, belle et tout cela, mais toute sa peau avait été brûlée, et après elle était toute, comme on dit, grobolue, enfin tout ça était vraiment laid à voir. Et quand ce bébé a grandi, elle est devenue une belle jeune fille à l'image de sa maman. Puis un jour, eh bien, cette belle jeune fille rentrait en train dans l'endroit où elle faisait des études, et puis elle est descendue à la petite gare où la maman habitait. Et puis la maman était là, elle attendait sur le quai de gare, se réjouissait de voir sa fille revenir à la maison et tout cela, elle était impatiente de la voir. Et puis sa fille qui était dans le train avec une copine et tout cela, eh bien elle sort du train, elle voit sa maman là, mais parce qu'elle avait une copine avec elle, elle a eu honte de sa maman qui était laide. Elle a marché comme ça, comme si elle ne la voyait pas. Pourquoi ? Elle avait honte de dire à sa copine, tu vois, ça c'est ma maman, parce qu'elle était devenue laide. Mais pourquoi était-elle devenue laide ? Elle, une très belle femme, c'était pour lui sauver la vie. Elle faisait comme si de rien n'était, puis la maman disait, « Eh ma chérie !» Elle l'appelait comme si elle n'entendait rien du tout. Il s'est trouvé qu'il y avait l'employé de la gare qui était là, qui connaissait la famille, la situation, qui a dit, « Jeune fille, ne fais pas ça. N'aie pas honte de ta mère. Je connais ton histoire. Elle t'a sauvé la vie. Elle est devenue laide pour que toi, tu puisses être belle. » Donc, des choses comme ça me parlent. Ça me fait réfléchir. C'est vrai que je rencontrais mon épouse, elle avait 18 ans, belle jeune fille, fraîche et tout cela et tout. Maintenant, elle a quelques années de plus. Mais je veux, disons, pouvoir voir au-delà de l'extérieur qui vieillit. Je veux pouvoir voir au-delà des cheveux qui grisonnent. Mes filles ont dit, mais papa ou maman, mais teins-toi les cheveux, tu as un visage encore jeune, eh bien, si tu teins tes cheveux, tu auras l'air encore plus jeune et tout cela. Rien de mal, prétendre ses cheveux et tout. Mais en tant que mari, en tant qu'homme, je veux dire non, je n'aime pas le vieillissement, je n'aime pas me sentir vieillir, mais c'est une réalité de la vie. Dans la condition dans laquelle nous sommes maintenant, on ne peut pas y échapper. C'est un processus naturel. Mais, dans la Bible, j'ai une promesse, qu'un de ces jours, très proche, nous allons recevoir un nouveau corps, jeune, beau, parfait. Donc, mes yeux ne sont pas simplement sur la réalité d'aujourd'hui, mes yeux sont sur la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et dans cette promesse, je vois mon épouse, comme quand je l'ai connue à 18 ans, une belle jeune fille et tout cela, avec ses beaux cheveux blonds, longs et tout cela, ses beaux yeux bleus et tout cela. Eh bien, dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques mois, je la reverrai comme cela. Mais pour moi, elle est toujours comme cela, parce que je sais ce qu'elle vaut à l'intérieur. Bon, des petites choses comme ça qui... Vous savez, notre vraie valeur. Est-ce que tu connais ta valeur aujourd'hui ? C'est quoi ta valeur ? Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que nous valons aux yeux de Dieu ? Qu'est-ce que nous valons aux yeux de quelqu'un d'autre ? Notre vraie valeur. Et je crois que l'Évangile, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous montre notre vraie valeur. Et je crois qu'aux yeux de Dieu, nous avons une grande valeur. C'est pour ça qu'il a payé le prix suprême. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On ne donne pas sa vie pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous êtes d'accord ? Jésus a donné sa vie pour toi, ma sœur, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi, jeune ici. Chacun, il a donné sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il tient à nous. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et mais cette valeur, ce n'était pas simplement parce que nous étions les plus beaux, les plus riches, les plus intelligents. Ce n'est pas ça. Il voyait au-delà de cela. Il voyait la valeur intérieure, la valeur cachée de l'individu. Vous savez, Dieu a donné à chaque être humain un charme. Et le charme, c'est un peu différent de la beauté, comme ça. Vous voyez dans des magazines, même des catalogues, des hommes et des femmes, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, on dirait, mais des traits parfaits, ils sont un corps parfait. Peut-être qu'ils sont vraiment bons dans la réalité, peut-être qu'il y a eu beaucoup de retouches qui ont été faites et tout cela. Mais si vous les côtoyez parfois, ce sont des fois des gens qui sont vides, qui ne resplendissent rien, il n'y a rien qui se dégage d'eux parfois. Je ne dis pas tous, mais peut-être certains. C'est juste extérieur, c'est du tape à l'œil. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens très beaux, hein, on peut dire qu'ils ont vraiment reçu un cadeau, là, ils sont beaux physiquement, intelligents, riches, et se marient et ne sont pas heureux. Ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à fusionner entre eux, ils n'arrivent pas à faire des projets ensemble, chacun vit sa propre vie et tout cela. Pourtant, ils ont tout, comme on dit, tout pour plaire, tout pour être heureux, et ça ne marche pas, parce qu'il manque quelque chose qui va au-delà, qui est plus profond que ce qui se voit. Donc, personnellement, je suis un être humain comme les autres, c'est sûr que je vois, j'entends, je ne suis pas là comme ça, disant je ne regarde pas, non, je regarde, je vois. Mais je me souviens que j'étais aux États-Unis là, en 1970, je suis allé avec un frère en Arizona dans une réserve Apache des Indiens. Vous avez entendu parler des Apaches, hein, les Indiens Apaches. Et là, j'ai assisté à un service de baptême. Et j'ai une diapositive où il y avait une sœur Apache, comme ça, elle devait avoir dans les 60-70 ans, comme cela, avec une belle robe en coton, longue, colorée, tout cela, les cheveux gris, mais un teint, vous savez, les Apaches, ce teint cuivré, comme cela. Mais elle était là, comme ça, impassible. Elle regardait le service de baptême, comme ça, à l'extérieur dans la nature, je crois que c'était dans une rivière et tout cela. Mais elle était là, comme ça, très digne, comme ça. Une femme de 60-70 ans, le visage buriné, vous savez, tout ça. Mais je l'ai regardée, je l'ai trouvée belle. Pourquoi ? Elle dégageait quelque chose. On sait que c'est une femme qui connaissait sa position, qui connaissait sa valeur, était là, et puis elle regardait ça, le service de baptême qui avait lieu. Je l'ai trouvée belle. Ce n'était pas une pin-up, ce n'était pas une star, ce n'était pas toutes ces femmes-là. Non, ce n'était pas ça, c'était une femme mûre. C'était une femme comme ça qui était posée et tout cela. Je l'ai trouvée belle. Donc elle était digne, elle présentait, il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle. Le charme de la personne est, chacun d'entre vous, et spécialement vous, jeune sœur ou sœur et tout cela, ne doutez pas de ce que Dieu vous a donné. Dieu a donné à chacun de ses fils, chacune de ses filles, quelque chose à l'intérieur. Mais je remarque très souvent, c'est le problème de chacun, nous doutons de ceci, nous doutons de cela, et souvent nous doutons de notre valeur. Est-ce qu'on peut dire intrinsèque, valeur intérieure, on doute. C'est pour ça que des fois, on en rajoute sur nous. On dit, mais si je mets ceci, si je mets cela, si je rajoute ceci, ça peut être du maquillage, ça peut être des bijoux et toutes ces choses-là. Si je mets ça bien, je serai plus beau, je serai plus belle, je serai plus jolie. Les gens s'intéresseront plus à moi. Chacun son avis à ce sujet. Mais personnellement, je pense que quand on fait ça, ça montre qu'on doute de ce qui est vraiment à l'intérieur. Plus on en rajoute, eh bien, ça montre un manque de confiance dans ce que nous sommes vraiment. Ça, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, pardonnez-moi si c'est cela, mais j'aime voir quelqu'un qui a tellement confiance dans ce qu'il possède, dans ce que Dieu lui a donné, qui peut être tout à fait naturel, rien d'artificiel, tout à fait lui-même, rien de rajouté, simplement comme ça. Et puis, il dégage quelque chose. On sent, il y a une paix, il y a une sérénité, il y a une joie, il y a un rayonnement, il y a quelque chose. Que je vois des gens comme ça, je dis, Seigneur, Ça j'aime. Seigneur, j'ai envie de ça. Donne-moi plus de cela. Bon, excusez-moi, peut-être que je deviens un petit peu trop personnel ou trop piquant. Comme ça, c'est vraiment pas mon désir. Simplement, ce que Dieu m'a appris. Vous savez, votre pasteur aussi, ça fait des années qu'il marche avec Jésus-Christ. Et quand on marche quelques années, bien, on voit beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, on fait aussi beaucoup d'erreurs, tout cela. Mais j'espère qu'on apprend un petit quelque chose aussi au cours de toutes ces années. Je crois que ce qui est important, c'est que notre extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. On peut dire, mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les regards. C'est vrai, ce n'est pas ça le plus important. Mais quand l'intérieur, que tu as un trésor à l'intérieur, que tu as Christ à l'intérieur, que tu as la parole à l'intérieur, il n'y a pas besoin de forcer. Simplement, soyez naturel, détendez-vous, relax. Et laissez sortir la nature qui est à l'intérieur, sortir. Il n'y a pas besoin de forcer, de fabriquer. Non, non, ne faites jamais ça. Laissez juste sortir. Ça doit... Ouh. Notre vie est notre révélation. Vous savez, dans le message, on parle beaucoup. Il faut la révélation. Oui, mais c'est quoi la révélation? Le prophète l'a expliqué. Comment savez-vous que vous avez une bonne révélation? Il dit, c'est quand la parole vit et s'exprime elle-même par vous ou à travers vous. Ça, c'est la révélation. Donc maintenant, frère François, quelle est ta révélation sur ce mystère? Quelle est ta révélation sur ceci? Quelle est ta révélation sur cela? Eh bien, je dis, frère, tu veux connaître ma révélation? Tu veux vraiment connaître ma révélation? Regarde ma vie. C'est ma révélation. Je n'ai pas besoin de te dire, eh bien, je crois ce verset, je crois cette citation. Tout ça, c'est connaissance. On parle beaucoup de connaissance, mais ce n'est pas une révélation. Mais la révélation, tu n'as même rien à dire. Tu n'ouvres même pas la bouche. Tu vis tout simplement ta vie de tous les jours. Tu vis comme ceci, tu vis comme cela. Eh bien, la vie que tu vis, c'est ta révélation. C'est ce qui dévoile qui tu es et ce que tu es. Le message nous dit ceci aussi, que la vie littérale de Jésus-Christ, c'est le signe du Saint-Esprit en nous. C'est le ticket de passage pour la gloire. Il n'a pas dit connaître. Non, on connaît beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça qui nous fait entrer dans la gloire, dans l'enlèvement. C'est la vie littérale de Jésus-Christ en nous. Ça, c'est le ticket de passage. Pour ça que, personnellement, dans mon église, je prêche sur beaucoup de sujets, mais quand des fois j'ai l'occasion de parler sur la vie de Jésus-Christ, ça c'est un de mes thèmes favoris. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui m'amène plus loin, qui me fait entrer dans l'éternité, qui me prépare pour l'enlèvement. L'Église, dans sa féminité, est le reflet et la gloire de Christ, comme l'épouse l'est pour son mari. C'est la vie de Christ en nous qui fait trembler le diable. C'est aussi ce que le prophète a dit. Parfois on peut penser, ah mais cette personne, elle parle avec puissance, avec beaucoup d'autorité, tout ça c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui fait trembler le diable, c'est quand il voit cette vie, quelque chose d'authentique. Ça il sait que ce n'est pas du cinéma, ça il sait que ce n'est pas du théâtre. Quand il voit cette vie, quand il a vu Jésus venir, Jésus ne l'a même pas tressé la parole, mais la Bible nous dit, le diable hissait déjà le drapeau blanc. Nous savons qui tu es, et tu nous tourmentais avant le temps. N'est-ce pas ce que la Bible dit ? Il est parvenu en disant, ça, il ne s'était même pas adressé à lui. Jésus marchait tranquillement avec ses disciples comme ça. Et quand le diable a vu cette vie arriver, pas un sermon, pas une prédication, une vie, il a eu peur. Il a commencé à hisser le drapeau blanc. Il avait peur, il a vu une vie arriver. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être le prédicateur qui crie le plus fort ou qui fait le plus de tapage et tout ça. Il dit, Seigneur, donne-moi simplement cette vie que tu avais. Et que quand je vais quelque part, le diable sait que ce n'est pas un homme, c'est toi qui arrives à cause de la vie. Je crois que la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter, ce n'est pas la victoire sur les mauvais esprits, sur le diable, sur la maladie, sur ceci, sur cela. Tout ça, ce sont des victoires qu'on doit remporter. Mais la plus grande victoire qu'un être humain puisse rencontrer, c'est quand il peut triompher de lui-même. Ça, c'est le plus difficile. Je connais plusieurs serviteurs de Dieu qui ont eu des ministères puissants, beaucoup de signes, miracles, prodiges, guérisons, conversions, des ministères extraordinaires. Et tout à coup, j'apprends qu'ils sont tombés dans le péché et dans l'immoralité, dans l'adultère. Je dis, mais comment est-ce possible avec des ministères pareils ? Pourquoi ? Parce qu'il manquait quelque chose. Ces hommes ont pu triompher des mauvais esprits, ils ont pu triompher de la maladie, ils ont pu triompher du diable, mais ils n'avaient pas triomphé d'eux-mêmes. Il y avait une partie d'eux-mêmes qui n'était pas vraiment morte. Et ce n'est pas Christ qui dirige leur vie, c'était eux-mêmes encore qui avaient des aspirations charnelles. Ils n'avaient pas pris la victoire sur eux-mêmes. Je dis, Seigneur, je ne condamne pas ces hommes. Je dis, Seigneur, aie pitié de mes Seigneur, aide-moi que je ne tombe pas dans ce piège-là. Seigneur, aide-moi à triompher de moi-même, de ma volonté, de mes ambitions d'homme, de mes projets humains, toutes ces choses. Seigneur, pas ma volonté, la tienne. Seigneur, je veux m'humilier devant toi, je veux m'abaisser devant ta parole. Seigneur, tu as toujours raison. Seigneur, pas moi, toi, Seigneur. Pour moi, ça c'est je crois, ma protection. J'aimerais lire un passage de la Bible avec vous, dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. J'aime ce passage de la Bible et vous le connaissez certainement très bien. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. Voilà, Philippiens 2, verset 3. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, la Bible parle au-dessus, au-dessous, au même niveau, l'égalité. Donc, tous ces termes qui sont là, on les retrouve dans la Bible, d'une façon ou d'une autre. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité on trouve le mot égalité, avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme ou un simple homme. Il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas forcé, il l'a fait lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance jusqu'à la mort. Verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Père, je te prie encore de bénir ta parole. Seigneur, comme j'aime ce passage. Seigneur, toi le grand Dieu, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, que tu aies désiré t'abaisser, t'humilier, te dépouiller de toute ta gloire, de toute ta grandeur, pour t'approcher de nous, pour t'approcher de moi, Seigneur Jésus. Moi qui étais loin de toi, Seigneur, tu t'es mis à mon niveau, tu t'es mis même en dessous de moi pour établir une relation d'amour avec moi. Seigneur, je te remercie pour cela. Seigneur, bénis encore cette parole pour nous ce matin. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît, je vous remercie. J'aimerais vous faire remarquer dans la Bible deux esprits qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et chacun de ces esprits a des caractéristiques différentes. Là, nous avons vu la démonstration de ce que faisait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu en Christ a fait que Christ s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est fait petit. Il est parti de tout en haut et il est descendu. Nous avons là la manifestation des caractéristiques de l'esprit de Dieu. Mais parallèlement, selon le prophète Ésaïe au chapitre 14, versets 12 à 15, Ésaïe 14, versets 12 à 15, la Bible est un livre de contrastes, spécialement le livre des Proverbes. Il y a toujours ces contrastes, ceci, cela, ceci et cela. Pourquoi est-ce qu'il y a la nuit? Pour qu'on puisse comprendre ce qu'est le jour. Pourquoi est-ce qu'il y a la maladie? Pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la santé. Pourquoi est-ce qu'il y a la tristesse? C'est pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la joie. Nous apprenons beaucoup de choses par la loi des contrastes, n'est-ce pas vrai? Pourquoi est-ce qu'il y a la haine? Nous puissions apprendre ce qu'est l'amour. Donc, il y a tous ces contrastes. Eh bien, là, nous voyons un contraste entre les deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, ou Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai, pas je descendrai, je monterai au ciel. J'élèverai, pas je descendrai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » On peut dire, mais ça c'est louable, semblable à Dieu. Oui, mais comment s'y est-il pris? En voulant monter. Et ce n'est pas comme ça qu'on devient comme Dieu ou comme Jésus. Ce n'est pas en montant, c'est en descendant. Verset 15. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Il a voulu monter et était précipité. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 2, « Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu. » Ézéchiel 28, 2. « Ton cœur s'est élevé. » Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, c'est le mot apocalypto, révélé, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Il y a un mouvement dans le monde aujourd'hui qui essaie de dire aux gens, aux êtres humains, vous êtes des dieux. Vous êtes des gens super puissants, super importants. Et les êtres humains, ils aiment entendre ça. Ça les flatte. je suis quelqu'un, je suis puissant, je suis ceci, je suis cela. Il y a même des sites sur Internet où vous pouvez entrer sur ce site et on vous donne l'impression que vous venez des créateurs. Vous pouvez vous créer pour vous-même le monde idéal. Vous pouvez vous créer pour vous-même la personne que vous voulez être idéalement. Peut-être que vous êtes vieux, rabougri et tout tordu, et là vous vous créez un avatar d'un homme jeune, musclé, parfait, beau, riche et tout cela. Vous vivez peut-être dans un petit HLM, un petit truc comme ça minable, mais là vous entrez dans ce monde virtuel et vous vous créez un château au bord de la mer, au bord d'un lac, avec un yacht, avec une Ferrari ou une Porsche devant la maison et tout cela. Toutes ces choses, vous voulez créer. Vous avez l'impression de devenir un créateur. Vous vous créez votre monde idéal où vous êtes la personne la plus belle, la plus riche, la plus influente et tout cela. Et vous choisissez aussi les gens. Vous pouvez avoir une interaction avec d'autres internautes aussi. Et puis là, vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez même avoir des relations intimes avec des personnes virtuellement. Et vous pouvez même aller à l'église dans un monde virtuel. C'est fantastique. Plutôt que de sortir de chez vous, de prendre le train, de marcher, de prendre le bus, de prendre la voiture, et puis il pleut, puis il fait froid, puis il neige, vous restez chez vous, dans votre fauteuil, avec votre souris, votre clavier, votre écran devant vous, et vous allez même à l'église si vous êtes un petit peu religieux. Vous pouvez choisir votre église. Vous voulez une église pentecôtiste? Il y en a une. Vous voulez une église baptiste? Il y en a une. Vous voulez une mosquée? Il y a une mosquée. Vous voulez un temple de ceci? Il y a un temple de cela. Vous avez le choix du lieu de culte que vous voulez fréquenter virtuellement. Et là, eh bien, votre avatar est là sur l'écran et commence à lever les mains et puis il fait comme s'il chantait des cantiques ou n'importe quoi. Vous pouvez vraiment vivre une réunion en étant assis sur votre fauteuil au travers d'un site internet. J'ai vu cela, j'ai un petit peu étudié ces choses aussi. Et vous pouvez même pécher virtuellement. Et beaucoup de gens se satisfont en disant: mais ce n'est pas vraiment le péché, parce que je n'ai rien fait de concret, je n'ai rien fait de physique. Et une fois qu'ils éteignent l'ordinateur, ils disent: mais tout va bien, je n'ai pas péché. Mais je veux que vous sachiez que le déluge est venu sur la terre, pas seulement à cause de la méchanceté ou d'actes physiques que les gens ont fait. La Bible dit: Dieu a vu que l'imagination de leur cœur était mauvaise. Dans leur pensée, ce n'était pas des actes, ce n'est rien de physique. Dans leur pensée, les gens étaient complètement pervertis, tordus, immoraux et tout cela, dans leur pensée. Et Dieu a vu leur pensée, et Dieu a dit: maintenant c'est fini, je détruis tout ça. Et nous sommes dans un temps où maintenant, et le prophète de Dieu a dit, à la fin des temps, les gens vont perdre la raison. Ils vont commencer à imaginer des choses qui ne sont plus la réalité. C'est pour ça que Dieu m'a inspiré il y a quelques années en arrière. J'avais vraiment un fardeau pour les frères et sœurs, pour les jeunes. J'ai parlé aussi dans des camps de jeunes et tout ça pour leur dire: maintenant, n'entrez pas dans le virtuel. N'entrez pas dans l'imaginaire. Restez dans la réalité. Combien de personnes sont gênées, sont embarrassées pour justement établir des vraies relations avec d'autres êtres humains? Des relations physiques, où on se serre la main, on se voit, on se parle. Beaucoup n'osent pas se présenter à quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas comment aborder quelqu'un d'autre. Alors on se met à l'ordinateur, tout seul dans sa petite chambre, et puis là on chatte, hein, on se fait des amis, des connaissances par ordinateur, en espérant que ça sera le grand amour qui va venir et tout cela. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège-là. Ce que vous montrez de vous-même aux autres, ce que les autres vous montrent d'eux-mêmes, n'est pas la réalité. On montre ce qu'on veut bien montrer. Et il y a beaucoup de déceptions à cause de cela. Non, la réalité n'est pas toujours bonne à voir ou bonne à vivre. Mais je crois qu'un vrai chrétien qui a Christ en lui, il peut vivre dans la réalité. Les deux pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Il peut voir les pires atrocités autour de lui. Et il ne panique pas, il ne se décourage pas, il ne perd pas la raison. Il reste tranquille, il dit: Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Aide-moi Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit à ce sujet? Dans nos pays occidentaux, même en Suisse, il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions nerveuses, qui perdent la tête, qui perdent la raison. Ma fille, Elisabeth, qui a fait un stage dans un hôpital psychiatrique pendant sa formation d'infirmière, tout près de chez nous, elle a dit: mais je n'ai pas le droit de te dire le nom des personnes, mais j'ai vu des personnes valables, des personnes intelligentes, des personnes qui avaient des belles situations, qu'on fait un séjour là-bas. Pourquoi ils ont, comme on dit, pété les plombs. Ils ont déconnecté. Pourquoi? Ils se sont retrouvés en face d'une situation qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'étaient pas équipés pour gérer cette situation. Pourtant, des gens intelligents, des gens haut placés, etc. Et plutôt que d'affronter la réalité, ils n'arrivaient pas à l'affronter, ils ont choisi de se déconnecter et d'entrer dans un monde imaginaire et de se faire, en guillemets, passer pour fou. Alors on les interne, on leur donne un traitement médicamenteux, des entretiens, des ceci, des cela et tout ça. Pourquoi? Pourquoi on leur donne tout ça? Pour les faire revenir dans la réalité. Et quand après quelques semaines de traitement, ils reviennent à la réalité et qu'ils voient que leur problème est toujours là, boum! Ils choisissent de déconnecter de nouveau. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est triste. J'ai passé par des moments de dépression. Il y a des moments où des fois j'étais frustré, j'étais fâché contre les autres, je me sentais, disons, incompris, rejeté, toutes ces choses-là. Et j'étais en colère, j'étais fâché. Et ça, des fois, ça peut sortir, ça peut exploser, ça peut devenir violent. Et d'autres fois, vous tournez la violence contre vous-même et vous vous détruisez vous-même. J'ai passé par des moments comme ça, des moments où je disais, mais pff, j'étais dans la nature, je disais, mais tiens, c'est facile pour moi, je monte sur une petite montagne, il y a un précipice, ben, je me laisse tomber dans le précipice, puis voilà, c'est fini. Ces idées ont passé par ma tête. Mais le Seigneur était là. Non, François, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je vais t'aider. Prends courage. Revenir dans la réalité. C'est facile de fuir, vous savez. Nous devrions être des gens courageux, mais souvent nous sommes des lâches. Nous avons peur de l'adversité, nous avons peur des difficultés et on cherche à fuir toutes ces choses-là. Mais quand vraiment Christ est en nous, quand c'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, quand quelque chose se présente, on dit Seigneur, c'est une surprise pour moi, mais pas pour toi. Si tu permets tel événement ou telle situation, Seigneur, tu as la réponse. Seigneur, je reste là, comme la Bible dit, restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Et vous restez là. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il y a une mer rouge? Je ne sais pas. Il y a un géant qui est là? Je ne sais pas. Il y a un lion qui est là? Je ne sais pas. Vous restez là. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu? J'aime cette vie-là. Frères et sœurs, je ne veux pas vous prêcher un évangile à l'eau de rose, simplement vous dire, oh, tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ça, c'est du bluff. Ce n'est pas l'évangile, cela. L'évangile, c'est que c'est un combat. C'est une bataille de chaque instant, de tous les jours, de tous les instants. Il faut être sur ses gardes, il faut se protéger et tout cela, mais avec la promesse, parce que Dieu nous aime, nous sommes plus que vainqueurs de toutes choses. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous croyez aussi? Donc là, Jésus a dit, vous connaissez ces passages, mais ce sont des passages qui me travaillent, c'est pour ça que je les partage avec vous. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12, Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine. Et ça, j'ai vu ça en Suisse, des chefs d'entreprise arrogants, hein, qui avaient des pleins pouvoirs, boum, et c'était la chute. L'arrogance, l'orgueil précède la chute. Proverbe 18, 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ce sont des passages que je lis, que je relis, qui me font tellement de bien. Dans Luc chapitre 9, versets 46 à 48, « Or une pensée leur vint à l'esprit, aux disciples, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » Ici, on parle de supériorité, d'égalité, d'infériorité. Et on dirait que dans le monde, si c'était si je vous faisais ici une réunion pour chef de vente, pour directeur d'entreprise, je dirais, regardez, vous commencez en bas de l'échelle et vous montez, et finalement vous vous retrouvez au sommet de la pyramide. C'est ça qu'il faut viser, le sommet, plus haut, plus haut, plus haut. Mais Jésus a dit qu'il a perçu leur pensée, lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand parmi vous tous, pardon, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Frères et sœurs, Jésus a prêché des messages, des paroles qui décontenançaient les gens. C'était à l'opposé de ce que les gens faisaient habituellement. Ne pensez-vous pas? Vous voulez être grand? Faites-vous petit. Maintenant, écoute, être grand, ça veut dire monter, et passer par tous les autres, écraser les autres au passage si nécessaire. Et Jésus dit, non, vous n'avez rien compris. Tu veux être tout en haut? Alors, sois tout en bas, pour commencer. Savez-vous pourquoi? C'est plus facile de monter que de descendre. Et le diable, il choisit toujours le chemin de la facilité. Luc 22, verset 27. Jésus dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Aujourd'hui, comme pendant toutes ces réunions, vous, frères et sœurs qui êtes assis là sur vos chaises, vous êtes à la table du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Vous êtes en train de manger, mais maintenant, moi-même, ou votre pasteur, ou le frère Alain, ou un autre prédicateur, quel est notre travail, notre ministère? Certains pensent, oui, le pasteur, on le met sur un piédestal, c'est le pasteur, c'est le berger, c'est le conducteur. Oui, c'est une de ses fonctions. Mais l'autre fonction, c'est celle que je veux prendre aussi, c'est de venir vers vous et vous apporter, voilà, à manger la parole de Dieu. Voilà, sœur, à manger la parole de Dieu. Mais où est-ce que j'ai trouvé cette parole-là? Ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée. Je suis allé loin de vos regards, dans ma chambre, sur mes genoux, ouvrant la Bible, sondant la parole, je suis allé à la cuisine de Dieu, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour tes enfants aujourd'hui? Moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas cuisinier pour 4 sous, je peux à peine cuire un œuf. Bon, je ne vais pas me laisser mourir de faim, j'ai réussi à me débrouiller quand mon épouse n'était pas à la maison, mais en tout cas, ce n'est pas mon fort. Mais je suis capable d'aller à la cuisine, de franchir la porte de la cuisine, d'aller prendre ce que le cuisinier a préparé. Ça, je suis capable de faire. Je mets ça sur le plateau, je ressors de la porte et je viens vers les invités comme ça. Je viens vers eux. Je dis, voilà, cher ami, je t'apporte à manger. Voilà, je t'apporte à manger. Sœur, je vous apporte à manger. Maintenant, je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas moi qui vous le donne. Je ne fais que transmettre le plat que Dieu a cuisiné. Maintenant, qui est le plus grand? Mais maintenant, Jésus a dit, vous êtes les plus grands. Vous qui êtes à table. Pas celui qui est derrière la chair. Celui qui est assis à table et qui mange la nourriture qu'on lui apporte. C'est comme ça que je vous vois. Je ne me vois pas comme quelqu'un de grand. J'ai simplement une fonction qui me permet de vous apporter de la nourriture. Que je crois être bonne parce que je sais d'où elle vient. Et je sais que c'est de la nourriture spirituelle pleine de vitamines pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Maintenant, si vous ne la voulez pas, je repars avec le plat. Je ne force rien, mais si vous avez faim, heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. C'est de la bonne nourriture. Vous savez que tout le monde dit ceci dans le naturel comme dans le spirituel. On devient ce qu'on mange. Avez-vous déjà entendu ça? On devient ce qu'on mange. Tu manges de la mauvaise nourriture, ton corps va tomber malade, il va s'affaiblir. Tu manges de la bonne nourriture, simple, mais disons la plus naturelle possible, ça va fortifier ton corps. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Nous sommes le reflet de la nourriture spirituelle que nous mangeons. Dans Jean chapitre 13, les versets 1 à 7, un passage que vous connaissez bien, c'est le passage sur le lavement des pieds. Vous le connaissez bien. Voilà qu'en plein repas, j'essaie juste d'illustrer la scène, ils étaient à table, ce n'était pas le lavement des pieds à l'entrée de la maison qui était une tradition parce qu'ils marchaient en sandales, les pieds étaient sales. Ils étaient déjà à table, ils étaient en plein repas et là, inhabituellement, Jésus se lève de table, il retire ses vêtements de dessus, il prend un linge qu'il met autour de sa taille et puis il s'approche des disciples pour leur laver les pieds. Il s'approche de Pierre et quand Pierre voit ça, la Bible dit, Jean 13, verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Vous êtes vous posé la question, pourquoi est-ce que Pierre, pourtant un des bons disciples du Seigneur Jésus, Pierre a osé dire non à Jésus? Vous êtes vous posé la question? Tu sais? Donc, il ne pouvait pas imaginer que Jésus lui lave les pieds. Tout à fait. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus ne pouvait pas lui laver les pieds? Est-ce que tu sais, Lucas?
Parce que Pierre était son serviteur.
Voilà. Donc, Pierre se voyait comme plus petit que Jésus Et il regardait, il levait les yeux vers Jésus parce qu'il avait de l'admiration pour lui. C'était son Seigneur, son Maître. Et Pierre a dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment mon supérieur peut tout à coup devenir mon inférieur? Regardez les trois niveaux de position. Le Seigneur, bien évidemment, on le met tout en haut. C'est un supérieur pour chacun d'entre nous. Et voilà que tout à coup, le supérieur, il se fait tout petit et devient l'inférieur. Pas l'égal, l'inférieur, le serviteur. Et c'était trop pour Pierre. Il a dit, mais ça, c'est le monde à l'envers. J'y comprends plus rien. C'est quoi pour une théologie? Vraiment, je suis complètement déboussolé. Non! Je ne peux pas accepter que mon Seigneur, celui que je vénère, que j'adore, que j'admire, tout à coup, il s'abaisse. Et plutôt que de lever la tête, je dois baisser la tête pour le voir. J'arrive pas à avaler ça. C'est comme ça que je le comprends. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit, Pierre? Si je ne te lave, si tu n'acceptes pas que je devienne ton serviteur, tu n'auras point de part avec moi. Pour moi, c'est un principe que je vais appliquer à ma vie. Oui, d'un côté, j'ai une certaine position, pas grande, mais dans le monde, beaucoup de gens me connaissent de par le ministère, de par les traductions, tout cela. Je ne suis rien du tout, mais Dieu a fait que bien des gens me connaissent. Mais ce n'est pas ça qui est important. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'abaisser, pour servir? Je veux me faire petit devant les gens. Je veux simplement être ton instrument pour répondre à leurs besoins. Pas pour les dominer, pour les servir. J'ai remarqué une chose que j'ai vérifiée dans ma propre vie. Dieu m'a fait des promesses, qu'il m'a appelé à son service et tout cela. Mais j'ai compris, Frère Branham l'a dit plusieurs fois, dans son langage à lui, pour monter, il faut descendre. Chacun doit savoir, doit connaître son appel et son élection, comme le dit la Bible. Bien, moi, je sais que pour être ce que Dieu veut que je sois, je dois descendre. Et j'ai fait de belles expériences encore ces derniers mois, par rapport à ce message que j'ai prêché dans plusieurs endroits. Je suis descendu, je me suis dévoilé, je me suis fait petit. Et j'étais tout heureux d'être à la maison avec ma famille, avec mon église, ma petite église et tout cela. Et tout à coup, il y a des invitations qui venaient d'ici et de là et tout ça. Prêcher dans tel endroit, dans tel pays, dans telle assemblée, jusqu'à prêcher devant 10 000 personnes comme cela. Mais qui suis-je? Je ne suis rien du tout. Je suis pasteur d'une petite assemblée de quelques dizaines de personnes. Ce n'est pas moi qui ai dit, invitez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Non, moi je suis tout content, j'ai assez de travail, l'église, les traductions, ça me suffit. Mais tout à coup, frère, viens ici, frère, viens ici, frère, viens ici. Et je crois avoir prêché peut-être dans certaines des plus grandes assemblées du message. Mais pourquoi? Je veux devenir petit. Et c'est le Seigneur qui élève. Dieu confirme, Dieu vérifie sa parole. Ça fait de moi quelqu'un de grand? Non, je veux rester toujours petit. Même que votre pasteur m'invite, quand il m'a téléphoné au début de l'année, je dis, ça me fait plaisir, mais des nouvelles de frère Michel, je pense de temps en temps à toi et tout. Ça, on s'est un peu coupé pendant quelques temps, tout ça. Puis je dis, mais pourquoi est-ce que frère Michel m'invite? Pourquoi il m'invite moi, peut-être pas quelqu'un d'autre et tout cela, mais pourquoi? Pourquoi venir vous rencontrer? Vous avez un bon pasteur, vous avez un bon assistant, le frère Alain aussi, mais pourquoi m'inviter ici? Je ne cherche pas des endroits pour prêcher, j'ai assez à faire, je suis suroccupé. Et pourquoi cela? Parce que j'ai envie de me faire petit. Je m'abaisse, je m'abaisse, je m'abaisse. Puis le Seigneur dit, viens ici François, j'ai besoin de toi, va là-bas, fais ceci, fais cela. Et après, maintenant je vais rentrer chez moi demain, retrouver mon travail, mon assemblée, repars un petit peu dans l'incognito, un peu comme ça, mais je suis heureux. Vous savez, ce n'est pas facile d'être quelqu'un de connu. Ce n'est pas facile d'être quelqu'un, plus ou moins comme on dit, de célèbre. Ce n'est pas facile. Parfois, on peut dire, ah, mais regardez, ces gens connus dans le monde entier, ils font la une des journaux et tout cela, frères et sœurs. Je ne voudrais pas vivre leur vie. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux sans qu'il y ait quelqu'un qui soit là, les filmer, les regarder, les observer. Ils ne peuvent plus vivre une vie normale. Et non, Seigneur, laisse-moi rester tranquille, petit, humble, et vivre une simple vie d'être humain chrétien. Avec ma femme, ma famille, mon église, mon entourage, mes voisins. Seigneur, ça me suffit, je suis heureux comme cela. Laisse-moi vivre normalement. Mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, on ne va pas la cacher sous le boisseau. Je veux me glorifier au travers de vous, donc à certains moments, je vais vous mettre en évidence, que les gens voient la vie, ma vie au travers de vous, et qu'ils me glorifient. N'est-ce pas la Bible? Donc, pardonnez-moi, si vous pensez que je parle un petit peu trop de moi-même, mais ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est pour vous montrer c'est plus simplement que la théologie. J'aimerais que ce que je dis, eh bien, se vérifie dans ma vie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je dois me mettre à l'autel. Seigneur, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je ne veux pas simplement être un orateur ou un prédicateur. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. Je veux être un homme, un simple homme qui vit la vie chrétienne véritable. Ça, c'est mon désir. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous êtes une sœur qui fait ceci, un frère qui fait cela, un jeune qui va à l'école et tout cela, mais il n'y a pas besoin de chercher des choses extraordinaires. Vis ta vie, une vraie vie, quelque chose qui vaut la peine, une vie authentique. Et vous verrez, ça produira une attraction. Hein? Vous serez peut-être le seul dans votre école, le seul dans votre entreprise, le seul dans votre voisinage. Et vous êtes là, humblement, vous faites vos travaux, vous allez faire vos commissions et tout ça, toutes ces choses. Les gens diront, hé, cet homme, cette femme, ce jeune, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Frères et sœurs, les gens aujourd'hui, dans un monde tellement superficiel dans lequel nous vivons, un monde tellement artificiel, les gens ont soif de réalité. Et je peux vous dire, j'ai travaillé à la banque pendant presque 10 ans. Eh bien, ils m'ont testé. J'avais des collègues huissiers comme moi, mais ils faisaient tout pour m'éjecter de la banque. Ils disaient, mais toi, mais t'es un pasteur, mais tu fais quoi dans une banque comme ça? C'est pas ta place ici. Allez, et c'est tout pour me saboter auprès des supérieurs, tout ça, me saboter, m'éliminer. Finalement, ceux qui étaient contre moi, ils sont partis avant moi. Un est décédé, l'autre est parti travailler ailleurs et tout cela. Mais j'ai été testé vraiment pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans mes tripes, n'est-ce pas? Ils avaient le droit de faire cela. Ils voulaient savoir, est-ce que c'est juste un vernis, est-ce que c'est juste un bluffeur comme cela, ou est-ce que vraiment ce gars-là, il a quelque chose dans ses tripes, quelque chose à l'intérieur de réel. Frères et sœurs, les gens veulent ça. Et pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont assez de blabla, ils en ont assez de qu'on leur en mette plein la vue. Ils veulent quelque chose qui marche. Et pour moi, c'était une super expérience. Parce que pendant le dimanche, j'étais comme votre pasteur à la chaire et je prêchais la parole. La Bible dit ceci, le message dit cela, la vie de Jésus-Christ. Hein, faites ceci, faites ça et tout ça. Et tout. Mais lundi matin, très tôt, je devais être à mon poste de travail, à la banque. Et maintenant, mettre en pratique ce que j'avais prêché le dimanche. Et ça, c'était une super bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de voir si ce que je disais à la chair, si ça marchait dans la vie de tous les jours. Et je l'ai expérimenté pendant presque 10 ans. Je peux vous dire, frères et sœurs, j'en suis ressorti fortifié. Je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est bon et qui marche, c'est vraiment ta parole. C'est vraiment le message. Ça marche. Quand on vit cette vie-là, eh bien, ça produit du fruit. Hein? Et juste pour vous dire, pour une petite chose amusante, quand le directeur de la banque, c'est un monsieur allemand de grande stature, monsieur Mac, son nom de famille, un allemand qui parlait très bien le français, mais un homme imposant et tout cela, plus âgé que moi. Il m'a engagé, j'ai eu un entretien d'embauche d'une à 2 heures de temps. Il voit mon curriculum, bon, j'ai une formation bancaire, mais après 20 ans où j'étais dans le ministère et tout. Donc il a vu que j'étais pasteur, prédicateur, et il m'a dit ceci, « Monsieur Le Picard, je suis prêt à vous engager comme huissier, mais que ce soit bien clair entre nous, vous ne venez pas ici pour évangéliser, vous venez ici pour travailler, faire ce qu'on vous demande de faire. » Je lui ai dit, « Monsieur Mac, vous avez raison, je suis d'accord, vous n'allez pas me payer pour évangéliser, vous me payez pour faire ce travail-là, c'est tout à fait juste. » Puis on continue à parler de choses et d'autres. C'est une petite succursale d'une banque qui s'appelait la Banque du Gothard, et il y avait peut-être 35-40 personnes dans cette banque. Et puis au cours de la conversation, M. Mac me dit, vous savez, M. Le Picard, en travaillant parmi nous, vous allez commencer à connaître vos collègues et tout cela, et vous verrez, il y en a certains qui ont des problèmes, des gros problèmes et tout cela. Peut-être que vous pourriez les aider. Ne venez pas pour évangéliser, non, chut! Mais vous savez, tous ces gens-là, il y en a certains qui ont vraiment des problèmes. Peut-être que vous pourriez les aider. N'est-ce pas merveilleux? On ne veut surtout pas de ça! Mais finalement, vous avez peut-être quelque chose dont on a besoin. N'est-ce pas ce que vous vivez aussi, là où vous êtes? C'est pas exceptionnel. Je crois que c'est pour tout chrétien comme ça. Hein? On a quelque chose que Dieu nous a donné, dont les gens ont besoin. Il n'y a pas besoin de sonner de la trompette. On vit notre vie, tout simplement. Les gens disent, mais tu as quelque chose dont j'ai besoin. Mais il faut un petit peu d'humilité pour reconnaître qu'on a besoin de ça et qu'on doit le demander. Moi, je trouve que la vie chrétienne est une vie, comme on dit, excitante. Hein? Exciting, excitante. Vous ne trouvez pas? il y a des défis tous les jours, ce n'est pas la routine. Si vraiment on est ouvert à cela, chaque jour on doit mettre notre foi en action, chaque jour il y a des obstacles, chaque jour il y a des défis. Frères et sœurs, ce n'est pas barbon, ce n'est pas ennuyeux, c'est dynamique. Amen. Combien sont d'accord avec moi? Ah, je ne suis pas tout seul, ça me fait plaisir. Hein? Vous êtes vraiment attentifs, vous êtes vraiment fantastiques. Mais encouragez-moi un petit peu. Des fois, je me dis, oh là là, mais je suis en train de les seriner, et puis ils sont en train de cuire sur leur chaise et tout cela. Ils disent, mais il n'a pas bientôt fini et tout cela. Encore une fois, pardonnez-moi pour cela. Mais vous savez, le corps souffre, votre corps souffre, mon corps souffre. Mais à l'intérieur, nous avons une âme. Et cette âme, elle a soif de Dieu. Elle a soif de la parole de Dieu. Maintenant, le corps, eh bien, on peut se reposer, faire une petite sieste, aller faire quelques pas, respirer l'air frais. Et puis le corps est de nouveau en forme. Mais ce que Dieu met dans notre âme, ça c'est quelque chose qui va ressortir par la suite. Dire, ah, j'ai entendu cette parole, maintenant je peux l'appliquer. Maintenant, il y a telle situation, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Le potentiel est là, il faut maintenant charger les batteries, il faut se remplir de la parole de Dieu pour pouvoir la vivre, l'utiliser au bon moment. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Ce n'est pas simplement pour dire, j'accomplis mon devoir religieux, maintenant je suis un bon chrétien. Non, ce n'est pas ça. Je viens pour me recharger, je viens pour m'équiper, je viens pour me former, pour pouvoir repartir dans le monde, parce qu'on doit être des lumières dans le monde. Amen. Là, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Et j'aime que frère Branham dise cela. Il dit, mais vous savez, le sel, eh bien, pour qu'il puisse donner de la saveur, il doit entrer en contact avec les aliments. Si nous restons repliés dans notre petit monde chrétien à nous, comme cela, en disant nous sommes les meilleurs, nous sommes des saints, on ne veut pas se souiller avec le monde et tout cela. Nous ne sommes pas le sel de la terre. Nous sommes le sel, mais on ne sert à rien. C'est pour ça que Jésus a dit, eh bien, je ne prie pas que vous soyez ôtés du monde, mais que vous soyez protégés du mal. Donc maintenant, on repart dans le monde, on va à nos occupations, et puis là, on vit cette vie, et on vient proche des gens, assez proche, pour qu'ils puissent goûter le sel. Ils disent, ça donne de la saveur. La présence de cette personne crée une atmosphère qui fait du bien. Vous savez, des fois, vous avez expérimenté cela, vous allez quelque part, peut-être les gens en langage grossier, vulgaire et tout cela, vous, chrétiens, vous arrivez, vous ne dites rien du tout, tout à coup, ils changent de conversation. Vous avez créé une autre atmosphère. Vous n'avez rien dit, aucun reproche, mais vous apportez quelque chose avec vous. Christ agit au travers de vous pour créer une autre atmosphère. Là où il y a de la tristesse, vous apportez de la joie. Là où il y a du doute, vous apportez la foi. Là où il y a du découragement, vous apportez de l'encouragement. Juste la présence de Christ en vous. N'est-ce pas merveilleux d'être un chrétien? Combien sont heureux d'être un chrétien ce matin? Oh, c'est bon d'être des chrétiens, des chrétiennes. Quel privilège. Hein, c'est... Merci Seigneur. Puis certains, si certains n'ont pas encore fait le pas de se repentir, d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, de recevoir le Saint-Esprit, j'espère que dans toutes ces longues prédications, vous entendrez un petit quelque chose qui vous fera envie en disant, mais j'aimerais goûter à plus de ça. Alors, parlez avec le pasteur ici, avec frère Michel ou frère Alain. Frère, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette vie-là? Et ces serviteurs de Dieu vous montreront dans la Bible le chemin qui vous conduit à cette vie-là. C'est un chemin simple. Tu te donnes, tu crois, tu acceptes et Dieu fait le travail. Merci Seigneur. J'aimerais prendre encore un autre passage qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Vous pourriez prendre votre Bible et l'ouvrir dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Dans Philippiens, tout à l'heure, nous avons parlé du Seigneur Jésus qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est fort quand même, c'est aller jusque-là. Être baissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Et regardez ce verset 4. Car il, Christ, a été crucifié à cause de sa faiblesse. 2 Corinthiens 13, verset 4. Il, Christ, a été crucifié à cause de sa faiblesse. Prenez encore 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 25. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur la faiblesse de Dieu. Combien savent que notre Dieu, il s'appelle en hébreu El Shaddai. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Tout-Puissant. Hein, c'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 17, verset 2, où Dieu se révèle à Abraham et dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. N'ayez pas peur, je suis le Tout-Puissant. » On voit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, en parlant du Seigneur Jésus prophétiquement, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et ça, c'est l'image qu'on veut présenter. Notre Dieu est un Dieu puissant, alléluia. Il est le tout-puissant, il est le grand vainqueur. Il est intouchable, il est puissant, etc. La puissance de Dieu. Recevez Christ en vous, vous aurez la puissance de Dieu en vous. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, une dynamique. Amen, et vous serez mes témoins. Puissance. Je crois ça de tout mon cœur. Je crois la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Je crois que notre Dieu, il est le tout super puissant. Personne n'est plus puissant que lui. Je le crois de tout mon cœur. Mais justement pour frapper un petit peu votre réflexion, simplement pour vous interpeller un petit peu, nous avons lu deux passages où il est question de la faiblesse de Jésus-Christ et de la faiblesse de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Avez-vous compris ce passage-là? La faiblesse de Dieu? Si Dieu n'avait pas choisi de devenir faible, pensez-vous que des êtres humains aient pu lui cracher dessus, le frapper, se moquer de lui, le crucifier, qu'on ait pu le faire souffrir, si lui n'avait pas accepté de se laisser faire? Frères et sœurs, hein, il est présenté comme le lion de la tribu de Juda, un vrai lion. Et j'ai vu des lions dans la nature, dans des parcs en Afrique du Sud, des vrais lions. Frères et sœurs, ils ont l'air tellement doux, tellement gentils, mais vous vous sentez bien dans le véhicule, pas en dehors du véhicule. Hein. C'est pas un animal de peluche et tout ça, non. Ne faites pas les malins avec lui. C'est un lion. C'est un animal féroce. Un coup de griffe, un coup de patte, un coup de dent, et c'est fini avec vous. Eh bien, notre Dieu, il est le lion puissant de la tribu de Juda. Est-ce qu'on va commencer à donner des coups de pied à un lion comme ça, en disant, on va voir comment il va réagir. Allez, paf, comme ça. Et puis le lion ne bouge pas. Est-ce que vous allez prendre des pierres pour les lui jeter, puis le lion va faire comme si rien n'est arrivé? Est-ce que vous allez l'insulter, vous moquer de lui et tout cela, puis le lion, il vous regarde comme ça tranquillement? Frères et sœurs, on ne joue pas comme ça avec un lion sauvage ou avec un fauve. Non, on ne rigole pas. Il a l'air tout tranquille, il est là, ah, il bat, et puis il se couche, et tout ça comme ça. Mais attention maintenant, il peut réagir une fraction de seconde. Et bien que le lion de la tribu de Juda choisisse de devenir comme un agneau qui se laisse tout faire, j'appelle ça la faiblesse de Dieu. Dieu est devenu faible. Sinon, on n'aurait jamais pu le crucifier, on n'aurait jamais pu faire mourir ce corps dans lequel il se trouvait, s'il n'avait pas accepté de devenir faible. Vous êtes d'accord? Non. Frères et sœurs, Dieu, c'est pas l'un d'entre nous. Hein. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est tellement fort, tellement puissant, il peut faire n'importe quoi. Il est le Créateur. Et maintenant, il s'est livré entre les mains de ses créatures. Il s'est laissé faire. On a pu se moquer. Allez, on l'a bandé les yeux, on l'a tapé sur la tête. Prophétise, dis-nous qui t'a frappé. On s'est moqué de lui. On l'a frappé, on l'a flagellé. On l'a meurtri, on l'a cloué. Tout ce qu'on pouvait le faire, on l'a fait. Et il n'a pas réagi. Les gens peuvent dire, ça, Dieu dans la chair. Regardez-moi ça. Il n'a pas ça de force. Il se laisse complètement faire. C'est un faiblard. C'est une mauviette. C'est un rien du tout. Il a choisi de devenir faible. S'il n'avait pas choisi de devenir faible, il ne serait jamais mort sur la croix et ni vous ni moi ne serions sauvés. N'est-ce pas fort? La faiblesse de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens aussi, il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 12, Paul avait une infirmité dans sa chair qui le dérangeait. Il disait, mais Seigneur, débarrasse-moi, libère-moi. Paul priait pour les malades, il était guéri, il chassait les démons et les démons partaient. Un ministère de puissance. Mais Paul souffrait dans son corps. Il a dit, Seigneur, délivre-moi une fois, délivre-moi deuxième fois, délivre-moi une troisième fois. Dieu a dit, non Paul, ma grâce te suffit. Et Paul a dit, j'ai compris pourquoi je devais passer par là. C'était à cause de l'excellence des révélations que Dieu m'avait données, pour éviter que je ne m'enorgueillisse. Et frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens depuis un certain temps, eh bien ça va être la même chose pour moi aussi. On peut prier pour les autres, Dieu répond. On peut prier pour quelqu'un, Dieu répond. Et quand nous on a un besoin, on prie, on jeûne, rien ne se passe. Vrai ou faux? Combien l'ont expérimenté? Ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour nous-mêmes. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que si Dieu s'est révélé à vous, vous a révélé sa parole, ses mystères, c'est facile que ça nous monte à la tête. Ouf, moi je comprends mieux la Bible que les autres. Moi je suis plus spirituel que les autres. Et Dieu dit non, je veux pas ça. Reste petit, reste humble. Mais parce que je t'aime, je vais te révéler ma parole. Mais reste petit, reste petit. Et pour éviter que ça nous monte à la tête, Dieu nous laisse une écharpe dans la chair pendant un laps de temps. C'est comme ça que je le comprends. Alors Paul a dit, à ce moment-là, j'ai compris que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dit, quand je suis faible, verset 10 du chapitre 12, c'est alors que je suis fort. Et frères et sœurs, Dieu m'a appris cela ces derniers temps aussi. On a envie d'être fort, un prédicateur fort, eh bien, au nom de Jésus-Christ. Et puis, j'ai la parole de Dieu, j'ai l'ainsi dit Seigneur, c'est moi qui ai la situation en main. Eh bien, j'ai vécu des choses où je n'avais plus la situation en main. Je ne maîtrisais plus la situation. J'étais impuissant dans telle et telle situation. Je n'arrivais plus maintenant à faire que certaines personnes eh bien, fassent les choses comme la Bible enseigne. Je n'arrivais plus à contrôler. Je n'arrivais plus à faire les choses comme moi je le voulais. Et je me suis senti faible, désemparé, désarçonné. Et Dieu m'a montré, et je crois que votre pasteur a prêché là-dessus, tu dois apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est une grande chose. Laisse faire. Maintenant, tu as fait tout ce que tu pouvais, laisse faire. Laisse-moi agir. Mais frère, c'est dur que tu en as envie de faire le bien, on a envie de glorifier Dieu, on a envie de faire le meilleur, et qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, elle amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand je disais ça, mépriser l'ignominie, mais ça veut dire quoi ça? Mais pour vous montrer jusqu'où Jésus est allé pour vous et pour moi, la Bible nous présente Dieu comme un Dieu saint, n'est-ce pas vrai? Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, criaient les séraphins dans le temple. Dieu est un Dieu qui présente la sainteté. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ils se sont fait une ceinture de feu de figuier, Dieu a dit non, ça ne marche pas votre religion. Moi, je vais vous donner des habits décents qui couvrent vraiment votre corps et tout cela. Et Dieu les a revêtus de vêtements de peau. Après, nous voyons que Dieu dit aussi maintenant eh bien, que les femmes soient habillées d'une certaine façon, que les hommes soient habillés d'une certaine façon. L'apôtre Paul reprend cela. Il dit maintenant, soyez habillés avec décence, avec pudeur, avec modestie et tout cela. On voit dans l'Apocalypse, à la Odyssée, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Aujourd'hui, les gens se dénuent toujours plus. Et Dieu dit, couvre-toi, cache ton corps, sois décent, sois saint, reflète ma nature. Ça, c'est le Dieu que je vois dans la Bible. Eh bien, ce Dieu dans un corps de chair. C'est ce que la Bible nous montre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27 et tout cela. Après l'avoir crucifié, Jésus, ils se partagèrent ses vêtements. Tous ses vêtements. Les artistes, les peintres, les sculpteurs mettent un petit quelque chose autour de la taille de Jésus, mais dans la réalité, il n'avait plus rien sur lui. Il était complètement nu sur la croix. Faire ça à un Dieu qui prône la sainteté, la dignité, la pudeur, la modestie et la sainteté, lui faire ça à lui, lui enlever tous ses vêtements et l'exposer nu en spectacle à la vue des gens. Et Jésus a méprisé l'ignominie, la honte dont on l'a couvert la plus complète. Il a accepté que de vulgaires pécheurs, des êtres humains, l'amènent jusqu'à ce point-là. Lui enlève toute sa dignité, toute sa sainteté, toute sa pudeur. Jésus nu, complètement nu, sur la croix. Pour qui ? Pour toi et pour moi. Jusqu'où Jésus est allé ? Tout ce que Jésus a accepté, parce qu'il nous aimait. Il a accepté d'être complètement dépouillé. Mes frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Si Jésus n'était pas devenu faible, je ne pourrais pas m'identifier à lui. Je pourrais seulement l'admirer. Ah, ce grand Jésus, qui est grand, qui est fort, qui est puissant, tous les miracles, tout ce qu'il fait. Ah, qu'est-ce qu'il est grand. Mais moi, je sais comme je suis, j'ai des faiblesses. Il faut dire, je t'admire, mais je ne peux pas devenir comme toi. Mais parce que Jésus a accepté de devenir faible, et que moi, je suis un homme faible, ma chair est faible, je peux alors m'identifier à lui, pour avoir une relation avec lui, un homme faible d'un côté, Jésus, un homme fait de l'autre, François. On peut avoir une relation, on peut se comprendre. Quand je suis incompris, il a été incompris. Quand je suis rejeté, il a été rejeté. Quand je suis persécuté, il a été persécuté. On peut se comprendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je veux le connaître, ce Jésus, dans la communion de ses souffrances. À ce niveau-là, je veux le connaître, pas simplement dans sa puissance, dans sa grandeur, mais aussi dans sa souffrance. On peut s'identifier à quelqu'un. Pour ça, je dis, Seigneur, je te remercie. Et vous savez, on parlait aussi, lors d'une réunion précédente, que dans la chambre à coucher, il y a quelque chose de très profond, de très intime qui ne se passe ni dans la cuisine, ni dans le salon, c'est réservé à la chambre à coucher. C'est l'union de deux êtres. Dans quel but ? Pour produire la vie. Avez-vous entendu ? L'être humain ne se reproduit pas en mangeant de la nourriture. L'être humain ne se reproduit pas en bavardant, en parlant, en échangeant. L'être humain peut se reproduire quand il y a une union réelle, concrète, intime entre les deux êtres dans la chambre à coucher. C'est comme ça que la vie est manifestée. Et Jésus nous attend dans ce lieu secret. N'a-t-il pas dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Tu fermes la porte derrière toi et tu pries dans le lieu secret. Et mon Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement, ouvertement. Il y a quelque chose, on prie en commun, ça c'est très bon, mais on doit prier aussi seul, dans l'intimité. Il n'y a pas de public, il n'y a personne d'autre, c'est Jésus et moi, c'est moi et Jésus. Les deux doivent fusionner pour produire la vie. Eh bien, dans la chambre à coucher, c'est le seul endroit où normalement, eh bien, le couple peut se dévêtir l'un devant l'autre. Parce que c'est l'endroit approprié. Il y a cette relation de confiance, il y a les liens du mariage, il y a une bénédiction divine là-dessus. Et à ce moment-là, on enlève tout ce qui était rajouté, on se montre tel qu'on est. Devant, derrière, il n'y a plus rien du tout pour masquer quoi que ce soit. Au début de cette année, je prêchais en Ukraine et je parlais là-dessus, ce que Jésus a fait. J'ai dit, mais par exemple, si quelqu'un a une cicatrice sur lui, eh bien, tant qu'il y a des habits, on ne sait pas qu'il y a une cicatrice. Mais le moment où il enlève ses habits, on voit, ah, il y a une cicatrice. Et après le service, il y a un des pasteurs qui était là, il m'a dit, frère, eh bien, j'ai une grande cicatrice ici. Parce que disons que j'étais loin du Seigneur, il y a eu une blessure, quelque chose comme ça qui s'est passé. Mais je ne savais pas. Mais c'est ça, il y a un moment où on enlève tout ce qui cache, tout ce qui camoufle. Et on se montre exactement tel qu'on est. Eh bien, Jésus sur la croix, il s'est montré à moi, complètement dévêtu tel qu'il était. Et je prends ceci en disant, Seigneur, eh bien, je veux m'identifier à toi. Tu as donné ta vie pour moi, pour que nous puissions devenir un. Je veux m'unir à toi, Seigneur, pour qu'ensemble, nous puissions produire ta vie, ta manifestation. Et je terminerai en disant que j'aime le ministère de William Branham, parce que c'était un homme vrai, un homme honnête. Et ce qui me frappe, eh bien, c'est qu'il a eu le courage de se dévoiler et de montrer ses faiblesses. Ceux qui connaissent l'histoire de sa vie, ils savent qu'il a perdu sa première femme, Sœur Hope, elle avait une vingtaine d'années, sa petite fille Sharon Rose, qui avait 18 mois. Il ne restait plus que Billy Paul qui était entre la vie et la mort. Et Billy Paul avait été placé, je crois, chez sa maman. Et un jour, frère Branham est rentré dans une maison vide. Sa femme, sa chérie était morte dans la tombe. Sa petite fille, Sharon Rose, était aussi enterrée. Et son petit garçon était chez sa maman. Et voilà un père de famille, un mari qui rentre chez lui. La maison est vide. Pourtant, c'était un chrétien, mais là, il a un moment de faiblesse. Il a dit, à quoi bon vivre? Il voyait plus d'avenir pour lui. Il a dit, non, c'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça, je m'ennuie trop, je suis trop triste et tout cela. Et je vais m'enlever la vie. Il avait des armes à feu à la maison, puisqu'il était chasseur et tout. Il a pris une de ses armes à feu. Il a dirigé contre lui. Il a tiré sur la gâchette. Il n'y avait pas de témoin. Et c'est lui-même qui a la chair sur bande magnétique, nous raconte ce moment de faiblesse. Il a tiré sur la gâchette et le coup n'est pas parti. Après, il a jeté son arme et boum, et le coup est parti. Il n'a pas été blessé. À ce moment-là, il travaillait pour la compagnie électrique. Il devait suivre les lignes électriques dans la campagne, grimper au poteau pour aller voir si les isolateurs étaient en bon état et tout cela. Un jour, il est monté sur un poteau électrique, vous savez, avec les griffes comme ça, il est monté jusqu'au sommet du poteau. Il avait des grands gants isolants, parce que les lignes, c'était des lignes à haute tension, avec quelques dizaines de milliers de volts. Et là encore, un moment de faiblesse. Il a dit, maintenant, c'est fini. J'en ai assez, je ne peux plus. Il a enlevé le gant isolant pour saisir la ligne à haute tension. Et dit que je suis revenu à moi, j'étais assis au pied du poteau, sain et sauf. C'est lui qui le raconte, ce n'est pas des racontats, lui l'a dit. Une autre fois, plusieurs années plus tard, ça c'était vers les années 58-60, le bureau des impôts aux États-Unis lui a fait toutes sortes d'histoires pendant des années pour lui faire payer des impôts qu'il ne devait pas. Que s'était-il passé? Il allait tenir des réunions à gauche, à droite, et puis on lui faisait un chèque au nom de William Branham, et frère Branham a dit, je prends cet argent et je le mets dans le fonds missionnaire. Je ne le prends pas pour moi, pour m'enrichir. Ça, c'est aussi une caractéristique d'un vrai serviteur de Dieu. Il aurait pu être super riche. Une personne à l'article de la mort était guérie par la puissance de Dieu au travers de son ministère. On lui a apporté un chèque $1 million. Ce n'était pas le dollar d'aujourd'hui, c'était le dollar de ces années-là qui valait 4 fois plus. Il a dit, non, je ne veux rien savoir de ça. Repartez avec votre chèque. On ne vend pas le don de Dieu. Il n'a pas utilisé le don de Dieu pour s'enrichir, pour faire de l'argent. J'aime quelqu'un comme ça, qui a du caractère pour savoir dire non à la facilité. C'est un piège. Donc là, voilà pour William Branham, pour votre ministère, voilà un chèque de temps, un chèque de temps. Et il allait à la banque, il endossait le chèque, on le signe au dos, pour que ça soit versé sur le compte missionnaire de l'Église. Et les impôts sont entrés là-dedans en disant, « Monsieur Branham, pendant ce court laps de temps, l'argent vous appartenait. » Nous savons, nous avons épluché vos comptes, nous savons que vous n'avez pas utilisé l'argent pour vous-même. On sait que vous l'avez utilisé pour la mission, mais pendant ce laps de temps, vous étiez propriétaire de cette somme. Vous devez payer des dizaines de milliers de dollars là-dessus. Il dit, mais ce n'est pas juste, je ne l'ai pas pris pour moi, je n'en ai pas profité. Il a dit, oui, mais il y avait votre nom dessus, vous l'avez endossé, il était donc à vous. Et ils ont empêché frère Branham de quitter le territoire américain pendant des années, alors qu'il était invité dans plusieurs pays du monde pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et on l'avait, je crois, retiré son passeport. Il ne pouvait plus quitter le territoire tant que le cas avec les impôts n'était pas réglé. Et quand Dieu lui a montré son ministère sur ces 7 montagnes, juste avant le 3e pool, il y avait une profonde vallée. Et là, il dit, c'est quand j'ai eu ce problème avec les impôts. Et là, pendant des années, ça dure, sans arrêt, téléphoner, on veut voir ceci, on veut voir cela. C'était un homme fini, usé, au bout du rouleau. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Fini, usé, tellement on était toujours après lui. Un jour, il était chez lui avec sa femme, le téléphone sonne. Se remet à prendre le téléphone, et puis il dit tout doucement, « C'est l'avocat. » Et frère Bam a eu un moment de faiblesse, a dit, « Dis-lui que je ne suis pas là. » Et il a pris la porte. Et sœur Branham a dit, « Je regrette, monsieur, mon mari n'est pas là. » Elle a raccroché. Un moment plus tard, il est rentré dans la maison. C'est lui qui le raconte. On trouve dans le message une délivrance totale. Et sœur Branham a dit, « Mais chérie, est-ce que tu penses que c'était vraiment juste ce qu'on a fait là, de dire que tu n'étais pas là, tu étais là? » Il a dit, « Non, non, mais j'étais sorti. » Il a cherché un petit peu d'argumenter. Frères et sœurs, lui-même l'a dit, je ne dis pas ça pour le dénigrer, j'ai beaucoup de respect, d'estime pour lui, mais lui nous a avoué un moment de faiblesse. Beaucoup pourraient prendre ce que je viens de vous dire en disant, pas, ça c'est un prophète, ça c'est un serviteur. Vous voulez dire que je dois croire dans son message? Et il ment, et puis il veut se suicider, et puis ceci, et puis cela. Et ça c'est quelqu'un à suivre, il faut croire un homme pareil. Chacun fait ce qu'il veut, mais je peux vous dire, j'ai confiance dans cet homme parce qu'il a osé être honnête avec moi. Il ne s'est pas présenté comme un super-homme, il s'est présenté comme un vrai homme, avec ses moments de gloire et ses moments de faiblesse. Mais après, quelqu'un l'a appelé pour les prier pour un petit enfant qui était malade, une famille. Il va là-bas et au moment de prier, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ta vie n'est pas en ordre. Frère Branham s'est excusé auprès des parents, il a dit, excusez-moi, avant de prier pour votre enfant, j'ai quelque chose à mettre en ordre avec Dieu. Il est parti dans la forêt, là-bas où il avait sa caverne. Il est allé prier, Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai craqué, j'ai eu un moment de faiblesse, je regrette, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, montre-moi que tu vas pardonner, Seigneur, je ne peux plus rester comme cela. Il a regardé, puis il y avait une petite brise, un petit vent qui soufflait. Il a dit, il y a les feuilles dans les buissons qui commencent à s'agiter comme cela. Il a dit, merci Seigneur, c'est toi qui passes devant moi pour me dire que tu m'as pardonné. Une petite brise. Après, il est retourné dans cette famille, il dit, maintenant, je peux prier pour votre enfant. Il a prié pour l'enfant et Dieu l'a guéri. Après, frère Branham est allé trouver cet homme de loi, cet avocat. Et il lui a dit, j'ai quelque chose à vous confesser. Quand vous avez téléphoné à la maison l'autre jour, j'étais à la maison. Mais je ne voulais pas répondre au téléphone parce que j'en avais assez. Et j'ai craqué, et j'ai dit à ma femme de dire que je n'étais pas là. Je vous prie de me pardonner pour cela. C'était mal. Et cet homme de loi, cet avocat, a pris frère Branham dans les bras en disant, frère Branham, jusqu'à ce jour, j'avais confiance en vous, mais maintenant j'ai encore plus confiance en vous. Pendant toute sa vie, frère Branham avait des problèmes digestifs. Il y avait comme un liquide amer, comme ça, qui remontait dans sa bouche. Pendant un temps, il ne pouvait même plus manger. Il disait, chaque fois que je mangeais, la nourriture descendait et boum, elle ressortait instantanément. Il vomissait. Il ravalait, ça ressortait. Il vomissait, ça ressortait. Il a dit, mais ça ne va pas. Dieu a fait des promesses. Dieu a promis que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a demandé à son pasteur baptiste, il a dit, s'il vous plaît, oignez-moi d'huile. Faites ce que la Bible dit dans Jacques, que Dieu me guérisse. Et après, on a prié pour lui. Il a voulu manger, boum, ça ressortait. Il a voulu manger. Il a dit, non, j'aurai la victoire. Et il vomissait ce qu'il avait mangé et il le ravalait. Il le revomissait, il le ravalait. Il le revomissait, il le ravalait. Mais finalement, c'est resté. Il n'a plus vomi. Mais néanmoins, parce que c'était aussi un homme hyper nerveux, eh bien là, il avait toujours ses remontées gastriques et toutes ces choses-là qui le dérangeaient. Il disait, mais Seigneur, je prie pour les gens. Et tu les guéris, tu les guéris, tu fais des miracles, tu ressuscites des morts. Mais moi, Seigneur, je souffre. Des fois, il a dit, mais je n'arrive pas à me tenir à rester debout à la chair, je suis tellement faible. Vous voyez, sur le film, à la fin, il est tellement épuisé à cause des visions, pas de la prédication, les visions, que Billy Paul et les frères devaient le prendre dans les bras et le porter pratiquement dehors, tellement il était affaibli, parce qu'il y a une vertu, une force qui sortait de lui. Il était un homme fini, vidé. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi tu ne guéris pas? Et ce n'est qu'à la fin de son ministère, en 1965, qu'il prêche le message sur les ailes d'une colombe. Et là, Dieu lui a montré aussi à Sabino Canyon, eh bien, qu'il était maintenant guéri. Il parlait d'un petit animal, etc. Et il dit, merci Seigneur, maintenant, je suis guéri. Il n'avait plus cet écharpe dans la chair. Il n'avait plus cette faiblesse physique. Lui qui priait pour les malades. À la fin, juste avant de le reprendre, Dieu l'a guéri de cette infirmité. Des fois, après les réunions, il était tellement épuisé. Le frère le prenait dans la voiture, il se mettait à sangloter, à pleurer. « J'en peux plus, frère, ramène-moi à la maison. Je veux retourner dans ma famille. Je veux retourner à la maison. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. » Mais le frère qui le conduisait savait, il faut simplement lui laisser le temps de se détendre, décompresser comme cela. Et par contre, on continuera les réunions. Mais il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a sacrifié sa famille, il a donné le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait un message à transmettre au peuple de Dieu. Mais c'était un homme qui paraissait fort, mais il avait aussi un côté faible. Plusieurs fois, il a dit, un frère est venu vers moi en disant, mais frère Branham, vous devriez retourner à l'école, vous devriez faire des études, votre langage, votre anglais, mais c'est terrible, c'est atroce, vous prononcez mal les mots, votre grammaire est terrible et tout ça, mais et frère Branham, excusez-moi frère, je viens d'une famille pauvre, je n'ai pas eu les moyens de faire des études, j'étais l'aîné de la famille, j'ai dû aller travailler tôt pour aider ma famille, parce qu'on avait des dettes et tout cela, et je n'ai pas pu. Il dit, oui, mais c'est sans excuse, maintenant vous pourriez prendre des cours et tout cela. Les gens vous apprécieraient plus. Et frère m'a dit, excusez-moi frère, mais vous savez, les gens qui viennent dans mes réunions, ils ne regardent pas si j'ai une bonne prononciation, une bonne grammaire. Ce qu'ils veulent, c'est voir Dieu agir. Il a dit, j'essaie de faire ce que je peux avec mon incompétence, avec mon manque, disons, d'instruction. Je fais tout ce que je peux maintenant, que chacun fasse la même chose. Mais moi, je fais ce que je peux et Dieu bénit cela. Il a reconnu ses faiblesses. C'est pour ça que je dis, Seigneur, je peux m'identifier à cet homme-là. Pour moi, c'était comme les prémices, c'était comme une gerbagité dans ma génération, que si lui pouvait devenir un fils de Dieu manifesté, à qui Dieu a pu confier la parole parlée créatrice. Je dis, Seigneur, avec ses faiblesses, ses manquements, tu as pu lui faire confiance. Je dis, Seigneur, je peux m'identifier à lui. Seigneur, je crois qu'un jour viendra aussi, tu auras assez confiance en moi pour pouvoir te glorifier au travers de ma vie. Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, Seigneur, il y a tellement de choses à voir dans ta parole. Seigneur, des choses tellement pratiques, tellement concrètes. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au travers de ces quelques paroles, de ces quelques exemples, il y ait quelque chose qui puisse toucher le cœur de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, peut-être un évangile un petit peu différent de ce qu'ils entendent d'habitude, je ne sais pas, mais Seigneur, ce sont des choses que tu m'as montrées, que j'ai vues, que je veux expérimenter. Seigneur, qui m'aide dans ma vie chrétienne de tous les jours. Seigneur, savoir quel but je vise, dans quelle direction vais-je, quel est mon objectif, quel est mon motif, qu'est-ce que j'attends, qui suis-je, que suis-je. Seigneur, toutes ces choses, tu essayes de nous parler individuellement pour nous positionner, nous montrer ce que tu as prévu pour notre vie. Qu'est-ce que tu veux faire au travers de nous, Seigneur? Tu veux que je sois connu dans le monde entier, si c'est pour ta gloire, que ton nom soit béni. Tu veux que je sois un illustre inconnu, comme on dit, quelqu'un, on ne sait même pas qui il est, mais que je puisse te servir, te glorifier, servir tes enfants, Seigneur, je suis heureux comme cela. Seigneur, simplement pourvu que ta vie, ta nature, toi-même, puisse t'exprimer au travers de chacun d'entre nous. Peu importe quelle est la position, ceci, cela ou cela, peu importe, Seigneur, on n'a aucune ambition humaine et charnelle. Notre seul désir, c'est d'être là où tu veux que nous soyons et faire ce que tu veux que nous fassions. Juste être tes représentants, tes ambassadeurs sur la terre au 21e siècle, en 2010, pour que les gens voient et sachent concrètement que Jésus est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il vit présentement dans des hommes et des femmes qui t'ont consacré leur vie, qui sont devenus un avec toi. Et Seigneur, ils sont les sarments, tu es le cep, et ta vie se manifeste, ton fruit se manifeste au travers d'eux, tu es glorifié au travers d'eux, ils sont la lumière du monde, ils sont le sel de la terre, et leurs œuvres sont tes œuvres qui te glorifient. Seigneur, nous voulons cela ce matin. Merci de nous aider, Père. Oh, Dieu, fais ton œuvre en nous. Accorde-nous cette grâce. Aide-nous, Seigneur Jésus, nous te prions pour ta gloire. Alors que les yeux restent fermés, les oreilles, les têtes inclinées, puis-je vous demander ceci, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui a parlé à votre cœur? Un besoin, un désir d'être plus comme Jésus, mais pas seulement une partie de sa nature, mais dans la totalité de sa nature, quelque chose qui reflète les attributs de Dieu, quelque chose qui vous montre ce qu'il attend de vous, ce qu'il veut faire, comment il veut se glorifier en vous. Est-ce qu'il y a eu un petit quelque chose qui était pour vous encore ce matin? Levez votre main, s'il vous plaît. Quelque chose qui vous aide, qui vous encourage, qui vous bénit, pas qui vous agresse, mais qui vous stimule pour continuer à marcher avec lui. Eh bien, Seigneur, tu vois les quelques mains qui se sont levées, je te remercie, Père. Je lève aussi ma main. Seigneur, continue ton œuvre. Seigneur, je crois qu'il y a une puissance de transformation dans ta parole. Seigneur, la vie est dans la semence. Tout ce que tu demandes, c'est qu'elle soit mise dans un bon terrain. C'est à nous, Seigneur, enlever les pierres, les épines, tous les obstacles, pour que ta semence, Seigneur, puisse pénétrer dans le sol, qu'elle puisse s'enraciner. Seigneur, nous allons l'arroser, nous allons prendre soin de la semence. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. La vie est dans la semence. La vie est dans la parole. Nous sommes le terrain, notre cœur, notre vie qui reçoivent la semence. Eh bien, Seigneur, j'ai foi dans la semence. J'ai foi dans la vie qui est dans la semence. Seigneur, tout naturellement, Seigneur, c'est une loi de la nature. Chaque semence doit produire selon son espèce. Eh bien, Seigneur, si c'est la bonne semence qui était semée et apportée ces jours, je m'attends, Seigneur, à ce que dans un bon terrain, elle produise selon son espèce. Qu'elle puisse produire cette vie littérale de Jésus-Christ, ce signe de la réalité de Jésus-Christ aujourd'hui, quelque chose d'authentique, de vrai, de véridique, de tangible. Oh Dieu, je veux cela dans ma vie. Seigneur, nous voulons cela dans notre vie. Seigneur, cette réalité-là. Mais ça vient de la semence que nous recevons dans notre cœur. Elle produit selon son espèce. Notre vie, notre extérieur, nos œuvres, nos paroles, notre comportement, notre attitude, tout ça reflète la vie de la semence que nous avons reçue. Père, que ce soit pour ta gloire, qu'il puisse y avoir une moisson, Seigneur, et dans cette église de l'Amblore, dans cette communauté, Seigneur, oh Dieu, puisses-tu te glorifier parmi eux. Bénis ces ministères, bénis ces frères, bénis ces sœurs, bénis ces enfants, Seigneur. Seigneur, je te prie, glorifie-toi au travers d'eux. Ils peuvent faire un travail que je ne peux pas faire, que d'autres ne peuvent pas faire. Tu les as placés là, Seigneur, pour ta gloire, pour te glorifier, pour te manifester, pour te révéler, Seigneur. Oh Père, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Je sais que tu les aimes et je les aime aussi de tout mon cœur. Seigneur, accomplis ta parole et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen.